Star Wars en direct vous est présenté par SidClark.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
This station is now the ultimate power in the universe.
How could they be jamming us?
A communications disruption can mean only one thing.
Star Wars on the Record.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
A gun. The Clone War has.
Bienvenue à tous à la 80e édition de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, l'édition de janvier 2009. Je vais commencer par vous souhaiter la bonne année au nom de toute l'équipe. Cette semaine avec moi, j'ai Henri de Camus Web. Bonjour Henri.
Bonjour, bonjour.
J'ai Louis de Star Wars Universe. Bonjour Louis.
Salut à tous.
Et j'ai Michel de MintInbox.net. Bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Donc, on va parler durant cette émission rapidement des actualités du mois de décembre, en fait, tout ce qui s'est déroulé depuis la dernière émission. Et notre sujet principal sera la revue de l'année 2008, donc les bons et les moins bons moments de l'année 2008. Si vous voulez communiquer avec nous, c'est à l'adresse studio@swendirect.com, studio@swendirect.com, et par téléphone sur Skype, avec l'usager swendirect.com. Si nous ne sommes pas en onde, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale. Donc, messieurs, je vais commencer immédiatement avec comment s'est déroulé votre dernier mois Star Wars. Avez-vous eu des cadeaux de Noël ou quoi que ce soit?
Non. Donc, moi, je n'ai rien reçu. Ils disent que j'en ai déjà trop pendant le courant de l'année, que c'est trop dur de me trouver un truc en Star Wars. Mm-hmm. Donc, ils s'abstiennent. J'ai eu... des cadeaux, somme toute classiques.
D'accord. Une bonne vieille cravate.
Voilà. Et les chaussettes assorties.
Une cravate Dark Vador.
Et toi, Louis, as-tu reçu quelque chose?
Vous quand on va au bureau.
Et toi, Louis, as-tu reçu quelque chose de Star Wars ou pas du
non,
tout?
Non plus, rien du tout. Rien du tout, parce que bah, c'est comme disait notre ami, hein. On achète tellement de choses durant toute l'année que plus personne ne sait quoi nous acheter. Hein. Mm-hmm. Donc, mais par contre, je dois avouer que j'ai fait chauffer la carte de crédit pour ce mois de décembre.
Ah ouais, qu'est-ce que tu t'es procuré?
C'est des cadeaux personnels, donc c'est vrai que ça compte pas.
Que t'es-tu procuré?
Eh ben, la fameuse Star Wars Encyclopédia, par exemple. Mm-hmm. La fameuse et très sympathique. Puis après, on a continué dans les BD, et puis aussi dans des sources book comme les vaisseaux, les plans de vaisseaux de tous les épisodes et tout ça. Mm-hmm.
Et toi, Harry?
Ben, je n'ai rien reçu non plus, mais par contre, je me suis aussi offert quelques petits trucs pour moi, les dernières bandes dessinées, les derniers romans. Je me suis trouvé l'autre jour, l'édition de La Guerre des Étoiles chez Presse de la Cité des années 77, donc j'étais bien content.
Mm-hmm. En fait, on est des fans mal barrés, hein. Moi non plus, j'ai rien reçu comme cadeau. Même si j'avais mis sur ma liste particulièrement un produit Star Wars et puis que je m'étais juré de ne pas l'acheter avant le temps, personne ne me l'a acheté.
On n'a pas été assez sage.
Ah, ça doit être ça.
Le terminal, il était pas content.
C'est ça. Donc, c'est malheureux, mais bon, on va voir pour les années prochaines. Ouais, c'est ça. C'est Noël à l'année longue, donc... Bon, on a reçu deux commentaires de fans, donc un tout simplement un des administrateurs de cette clan qui testait Skype, donc je vais faire quand même, il nous souhaite quand même bonne émission, c'est Bill, donc Olivier plutôt, je vais aller chercher son petit message sur la boîte vocale dans quelques instants, et où l'historique, et voilà, je vais vous faire entendre ça.
Hello l'ami, c'est Olivier. C'est juste pour tester un peu Skype, parce que c'est la première fois que j'ai une connexion avec Skype, donc j'ai une occasion de faire un petit message pour Star Wars en direct. Donc voilà, bah, félicitations à tous pour cette émission, c'est vraiment génial que vous écoutez toujours avec attention. Un grand merci, au revoir.
Et voilà, c'était Bill, qui d'ailleurs je crois qu'il nous écoute présentement, donc bonjour à toi Olivier. Autre chose, on a reçu un email, je vais aller le chercher rapidement, qui s'appelle Denis. Et il nous demande « Bonjour, je suis fan et je découvre votre site. Je réalise une maquette en carton du Tantive 4. Il est un peu grand, 1 mètre, et j'ai besoin d'idées de détails. Il n'a pas fait les peintures ni les détails encore, et il voudra avoir des détails. Qu'est-ce qu'on pourrait lui suggérer, par exemple? » Ben moi, je dirais essaie de te trouver des encyclopédies. Il y a plein d'encyclopédies avec des vaisseaux, tu vas pouvoir voir les textures et pouvoir les reproduire. Il y a Internet, chercher sur Google, il y a plein d'images qu'on peut, des livres de référence où est-ce qu'on peut trouver tous ces détails-là. Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, messieurs?
Il peut contacter, à mon avis, FanWars, qui est la 61e garnison belge du côté francophone, mm-hmm. qui ont réalisé un énorme...
maquette.
Enfin, une énorme maquette comme ça qui a été présentée plusieurs fois au FACT. Mm-hmm. Et à mon avis, eux, ils ont peut-être des trucs à lui proposer. Donc, qu'ils les contactent et voir si par eux, il peut avoir plus d'informations. Parce et... qu'elle est vraiment semble, sublime. Mm-hmm.
Et je pense que c'est Louis que tu étais pour dire quelque chose ou Henri.
Oui. Bah, c'était simplement pour dire que dans le cas échéant, bah, il y avait justement le bouquin que j'avais acheté, là, les plans de vaisseaux. Mm-hmm. de la saga où on va trouver éventuellement quelques détails.
Mm-hmm. C'est ce que j'allais dire.
D'accord, les blueprints, dans le fond, les
Non, les blueprints, on les a pas encore eu en France. Ils parlent des plans des vaisseaux et engins.
Ah, ok,
où
oui.
On peut voir l'intérieur et c'est tout ça, donc il y a les... Donc, ah, y a oui. les détails.
D'accord, merci beaucoup.
Mais donc... ceci dit, quand même, faut rappeler une chose, c'est que quand on regarde le premier épisode, Un Nouvel Espoir, on a quand même pas mal de détails quand on voit le Tantive 4 arriver. Hein. Mm-hmm. Parce que c'est une maquette, déjà, donc de une, c'est une maquette, en plus on a un gros plan bien clair dessus. Donc je crois qu'avec une capture d'écran, déjà, on s'en sort bien. Quoi.
Mm-hmm. Donc... il y a sûrement des morceaux dans les bonus aussi, mm-hmm. dans les DVD, tout ça.
Je suis certain qu'il y a plein de photos sur Internet, etc. Même les exhibitions, la tournée là, qui fait... je ne sais plus c'est quoi le nom de l'exhibition qui se promène de ville en ville.
Star Wars Exhibition.
Ah bon. Ok, d'accord.
Il ne faut pas chercher plus loin.
Il faut dur à te rappeler.
Exactement. Qui a sûrement une maquette du Tantive 4 dans cette exposition.
Il y a le pont y est, sûr et certain. Parce qu'il y a eu l'année dernière à Bruxelles justement, c'était l'expo était à Bruxelles, mm-hmm. et il y avait le pont complet qui était là-bas. D'accord. Mais le vaisseau entier n'y était pas.
D'accord. Donc si vous voulez faire comme Denis, vous avez une question quoi que ce soit à nous proposer, ben envoyez-nous un email à studio@swendirect.com. Sur ce, on va aller immédiatement aux actualités du dernier mois.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, on va débuter avec Henri pour les nouvelles de littérature roman. Donc, c'est à toi.
Alors. Je suis là. Alors, ce qu'on a eu très peu de temps après notre dernière émission, nous avons appris deux, trois petits détails sur le livre d'horreur de Joe Schreiber, qui mm-hmm. va sortir l'année prochaine. Donc, le titre sera Death Troopers. Mm-hmm. Et en fait, on devait, à l'époque, il devait se passer entre l'épisode 4 et 5. Maintenant, il se déroule juste avant Un Nouvel Espoir.
Okay.
Donc, c'est des petits détails.
Death Ensuite... Troopers.
ouais.
Quoi, c'est donc, des zombies.
c'est. Ouais. Donc, arrête, sur Rostenir. sur Rostenir, a reçu un premier. Apparemment, elle a reçu dernièrement un premier jet Pour l'instant, elle est en train de lire le second Fate of the Jedi, mais elle a le premier jet de ce roman-là à lire ensuite, donc peut-être qu'elle nous dira un peu plus de ce qu'elle en pense. Ensuite, justement, en parlant de Sourostoni, elle a mis à jour son blog avec quelques changements de date. Donc, ça va être un peu long. Donc, je parlerai pas du premier Fate of Jedi parce que j'ai un synopsis important à lire après. Donc, le second tome qui sort le 23 juin, toujours Fate of the Jedi, Omen. Dans celui-ci, Luke et Ben sont en danger. En fait, presque tout le monde est en danger. Et il y aura presque une scène dans un zoo. Donc, ça c'est les petits trucs de Sourostoni. Tout d'un coup, elle lâche toujours un petit truc comme ça qui n'a rien à voir. Donc, ensuite, le 28 août, troisième Fate of the Jedi. Il y a encore plus de choses se passent, mais il y a aussi de bons moments. Apparemment, Ben va apprécier un dîner avec un rendez-vous. Donc, premier rendez-vous galant pour le petit Ben, on sait pas.
Est-ce qu'on peut prévoir avec qui? Est-ce que une personne connue, ouais, peut-être?
Pour l'instant, je ne vois pas avec qui ça pourrait
être. Ça va être chaud, cette série-là.
c'est les hormones, hein.
Après le roman d'horreur, après un roman de cul, attention.
Ouais, mais il y a quand même Wild Space qui avait une scène entre Anakin et Padmé au lit, donc quand même.
C'est ça qui est bon. Bravo. On remercie Lucas Book de permettre tout ça.
Donc ensuite, le 29 septembre, le premier Imperial Commando de Karen Travis, dont le titre est Fight Go First. Les Clone Troopers deviennent les Storm. Après les terribles premiers jours suivant l'Ordre 66, on va découvrir comment Darman, Niner et les autres trouvent leur chemin dans un empire devenu fou. Mm-hmm. Donc ensuite, j'en parlais, le 27 octobre, ce sera la sortie de Death Troopers. Mm-hmm. Le 15 décembre, ce sera le troisième Dark Bane.
D'accord.
On va voir comment Dark Bane s'entend avec son apprenti Zana. Donc ça sera toute la suite directe du deuxième tome. Ensuite, peut-être que certains l'ont déjà vu, Blood Oath a été déplacé en décembre, fin décembre, alors qu'il devait sortir un mois après le premier Fate of the Jedi. Donc apparemment, c'est parce que le manuscrit n'est pas encore terminé et donc ça serait pas sorti à temps pour avril. Sue ajoute que c'est dommage parce qu'elle voulait que le livre sorte très peu de temps après Outcast, Blood Oath se passe chronologiquement avant. Elle préfère que ça sorte très peu de temps après, mais c'est un peu raté. Donc le roman commence alors que Zek se trouve dans une Stealth X en perdition et commence son chemin pour retourner vers l'Ordre Jedi. Mais évidemment, d'autres choses vont lui arriver et j'aurai un synopsis plus important à vous lire un peu après. Après, on passe en 2010, donc c'est toujours les changements. 18 janvier, ça sera le quatrième Fate of the Jedi. Le 26 janvier, Cross Current de Paul S. Kemp. On retrouvera Jalen Kor ainsi que quelques Jedi Sith. Ça se déroule un petit peu durant la grande guerre de l'hyperespace. Et de l'autre côté, ça se passera dans le présent. Donc on pense à un mélange passé-futur.
D'accord.
Mars 2010, le quatrième Clone Wars par Kyle Miller. 27 avril 2010, le cinquième Fate of the Jedi par Christy Golden. Juin 2010, le cinquième Clone Wars par Karen Miller. Juillet 2010, le second Imperial Commando par Karen Travis. Août 2010, le sixième Fate of the Jedi par Troy Denning. Octobre 2010, le roman de Alex Irvine avec Nomi Sunrider. Novembre 2010, le septième Fate of the Jedi par Aaron Alston. Janvier 2011, le 8e Fate of the Jedi par Christy Golden. Mars 2011, le roman sur Boba Fett par Karen Travis. Avril 2011, Fate of the Jedi 9, qui est la fin de la série avec par Troy Denning. Et ensuite, on termine en juin 2011 par le roman authentique de Michael Reese et Maya Catherine Bonhoff, avec une future Hall of Star dans une histoire qui se déroule quelques années en Yavin. Ensuite, on passe au planning Fleuve Noir de l'année 2009, donc ce sont les sorties françaises. Donc il y a comme cette année, en 2008, on aura neuf sorties, sept sorties au lieu de six, pardon. parce que cette année on en avait aussi, on avait une septième en plus, et apparemment Fleuve Noir fait la même chose pour l'année prochaine. Donc on commence le 26 février par le deuxième Darkbane, la règle de deux, le Drukhar Pishin. 23 avril, le second Clone Wars en territoire inconnu de Karen Miller. 28 mai, le pouvoir de la force de Sean Williams. 25 juin, le troisième héritage de la force, Tempête de Troy Denning. 27 août, Clone Wars 3, No Prisoners de Karen Travis. Le 22 octobre, le quatrième héritage de la force, Exil. 10 décembre, le premier Coruscant Knights, Jedi Twilight. Donc, pour certains qui suivent un peu le topic sur SVU, il y a plusieurs personnes qui se demandent s'il faudrait pas mieux changer quelques sorties, comme par exemple rajouter un tome de l'étage de la force pour un peu accélérer les sorties. Mm-hmm. Donc, je vous tiendrai au courant s'il y a des changements.
Mais il y a pas de changement du tout pour l'ordre, dans le sens que il va y avoir un retard éternel là, avec Fleuve Noir. Donc,
oui. C'est pour ça qu'on voudrait que certains voudraient au moins sortir un épisode de plus de Fate of the Jedi, parce que sinon Legacy of the Force, parce que sinon on finira par avoir le dernier on finira par terminer Legacy of the Force en même temps que les Américains termineront Fate of the Jedi, donc ça serait pour un peu accélérer la cadence.
D'accord.
Donc ensuite, il me reste encore deux longs résumés, enfin deux synopsis. Le premier, c'est Blood Oath. Donc on vient d'avoir aussi la couverture avec en premier plan Zek. Donc le petit synopsis. Avant, il n'était qu'un orphelin parcourant les rues des bas-fonds de Coruscant pour ensuite devenir un chevalier Jedi et servir avec honneur comme pilote pour la Nouvelle République. Aux côtés de Jedi Solo, il a affronté les forces de Dark Cadus, le plus puissant des seigneurs Sith, lors d'une bataille qui l'a presque détruit. Mais son histoire n'est pas terminée. Pour Zek, le futur contient encore de nombreuses surprises. Dark Cadus est mort et la guerre est finie. Malgré cela, les vestiges impériaux sont toujours une vraie menace pour l'Alliance Galactique. Et bien que la tentative d'assassinat de Tenelka, la reine-mère du consortium de Apes, par les Moffs a échoué, leurs machinations ont révélé un ancien secret capable de détruire la reine et son peuple aussi sûrement que la plus mortelle des attaques. Tandis que Jack Fell, chef au sein des vestiges et ancien rival de Zek pour les sentiments de Jedi Solo, prend le contrôle du conseil des Moffs et se retrouve au milieu d'intrigues explosives, Zek, qui doit désespérément trouver un moyen de contacter ses camarades Jedi, tombe à la merci d'une capitaine pirate qui possède ses propres plans et n'est fidèle qu'à elle-même. Mais avec ou sans son aide, le chevalier Jedi jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter le conflit qui se forme autour de lui avant qu'il n'atteigne une fin fatale. Et donc le livre, comme j'en parlais il y a quelques minutes, sortira chez Del Rey en poche en toute fin d'année.
J'imagine que ensuite, les jolies demoiselles que l'on voit sur la couverture sont la chef pirate, j'imagine.
Non, elles ont un nom, c'est des jumelles, et je n'ai plus le nom sous la main.
D'accord.
Mais je crois pas que ce soit la chef pirate, okay. Mais je peux me tromper.
Jolie demoiselle.
Pardon.
Ensuite. Donc on a eu également, il y a très peu de temps, la couverture d'The Outcast, le premier Fate of Jedi par Aaron Alston. Donc là aussi, c'est très flashy, comme on a pu le voir, c'est très orange. D'ailleurs, sous Rossini,
très laid.
qu'on peut voir justement sur la caméra. Bon, pour moi personnellement, à part la couleur, ça me déplaît pas tellement. D'ailleurs, Sue Rossini avoue qu'elle-même n'a pas tellement aimé la couleur, mais qu'il fallait bien commencer la palette de... Elle a précisé que c'était pas sa couleur préférée quand même, mais qu'il fallait bien commencer la palette quelque part. Donc, c'était pas son premier choix, mais ils ont opté pour ça. Et donc, le synopsis, donc attention aux spoilers pour ceux qui n'auront pas lu tous les héritages de la Force et tous les livres Nouvel Ordre Jedi... Après une violente guerre civile et la destruction causée par feu d'Arcadius, l'Alliance Galactique est en crise et dans le besoin. De tous les coins, politiciens, puissants personnages, chefs militaires convergent vers Coruscant pour un sommet important dans le but de restaurer l'ordre, négocier leurs différends et déterminer le futur de leur monde unifié. Mais le futur des Jedi est encore plus critique et encore plus incertain. Dans un mouvement surprenant, Le chef d'État Natasi Da'ala ordonne l'arrestation de Luke Skywalker pour ne pas avoir prévenu la chute de Jacen Solo dans le côté obscur et son règne de terreur en tant que seigneur Sith. Mais ceci n'est que la première réaction violente anti-Jedi alimentée par un gouvernement hostile et un peuple suspicieux. Tandis que le chevalier Jedi Valin Horn, descendant d'une importante famille politique, souffre d'une mystérieuse dépression et devient un dangereux fugitif, les Jedi deviennent la cible d'une chasse aux sorcières soutenue par les médias. Faisant face aux charges d'Ala, Luke n'a qu'un seul choix. Il doit signer un traité avec Dala, sa liberté en échange de son exil, loin de Coruscant et de l'ordre Jedi. Maintenant, désormais interdit d'intervenir dans les affaires Jedi, Luke est déterminé à empêcher l'histoire de se répéter. Avec son fils à ses côtés, Ben, Luke part à la recherche de la vérité derrière la corruption et la chute de Jacen Solo. Mais les secrets qu'il découvre parmi les énigmatiques mystiques de la Force sur la lointaine planète de Dorine pourraient mener sa quête et la vie telle qu'il la connaît à une fin violente. Pendant ce temps, un autre chevalier Jedi, atteint de la même maladie que Valin Horn, se dirige vers Coruscant pour une terrifiante mission qui pourrait sonner le glas de Lord Jedi et dévaster la galaxie entière. Et voilà. Donc c'est... J'ai très envie de lire ce roman.
Ça sent la mortalité à court terme.
J'ai hâte de savoir ce que c'est cette mystérieuse maladie qui force la dépression.
Ça doit être quelque chose qui est dans l'air, comme dans le film The Awakening, là, ou je sais pas trop.
Je n'ai pas vu.
Ça force le monde à se suicider pratiquement. Là. En tout cas, je pense pas que ce serait ça, mais c'est à voir. Donc, c'est tout pour
les... C'est pas impossible que... Tout d'un coup, là, j'y pense. C'est pas impossible que ce soit une maladie peut-être créée par la République pour détruire lentement les Jedi.
En effet.
Et en tout cas... Déjà, on sent déjà un peu les prémices de la série BD Legacy, surtout dans Blood Oath, parce qu'on a justement la première apparition de Jack Fell au sein des conseils des Moff. Et comme on sait que la famille Fell est très importante dans la série bande dessinée Legacy.
Et on sait que dans la série Legacy, Luke Skywalker est mort, donc il voit peut-être sa fin à la fin de la série. Ça serait possible.
C'est-à-dire que d'un moment, il faut bien qu'il meure, il peut pas vivre 200 ans. Hein.
Donc, parlant de BD, on va enchaîner immédiatement avec Louis. À moins que t'aies pas terminé, Henri.
Non, c'est bon, moi.
Parfait. Donc, c'est à toi, Louis.
Ok, bon, ben, on va commencer vraiment très vite fait sur le côté des Amériques. Donc, je vous parlais de previews, en rappelant les synopsis. Donc le prochain à sortir sera pour le 21 janvier, il s'agit du KOTOR 37, Prophet Motive, c'est la deuxième partie, la deuxième et dernière partie de cet arc. Donc le synopsis, la nouvelle vie de l'ancien Padawan Zen Karik prend un dangereux virage lorsqu'une arnaque qui tourne mal place ses amis dans une situation dangereuse. Ratisser les financiers corrompus de Metellos 3 semblait être une affaire sans problème pour les amis de Zen, Jarael et Rolan, jusqu'à ce que les problèmes les rattrapent. Maintenant prisonniers d'un syndicat du crime galactique, Jarael et Rolan doivent trouver un moyen de survivre assez longtemps pour que Zen et Griff puissent leur venir en aide. Donc l'auteur c'est John Jackson Miller, les dessins sont de Brian Ching, les couleurs de Mike Attiwe. Puis donc voilà, bon, vous m'excusez encore pour l'accent, hein, parce que c'est vrai que les noms comme ça, j'ai toujours un peu de mal. Le deuxième, qui est prévu pour le 28 janvier, c'est le Legacy 32, Fight Another Day, la partie 1 de 2. Donc, le synopsis. Le plan de Dark Krayt visant à exterminer les Mon Calamari est toujours en cours d'exécution. Avec seulement les Rangers, Mon Cal entre la population, des réfugiés et un châtiment certain. Malheureusement, un scientifique Sith découvre une nouvelle arme contre les Rangers qui sont impuissants face à cela. Face au choix de laisser les réfugiés périr ou de se sacrifier soi-même dans une tentative suicidaire, les Rangers se tournent vers une aide inattendue et peu fiable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en vitesse du côté des Amériques. Côté France, côté Europe, cette semaine, on a eu la sortie du tome 6 de Rebellion, Petite Victoire, Small Victories, qui sont tirés des Rebellions 11 à 14. On attend très prochainement la sortie du deuxième tome de The Clone Wars, Crash Course. Et en février, La Légende du Jedi, le tome numéro 4, Les Seigneurs des Sith. Donc, on a vu qu'avec ce mois-ci, on a eu un nouveau saga en BD. Dans cette saga en BD, donc, on a retrouvé différentes histoires, notamment Target, Vador, qui est l'Empire numéro 19. Donc, très bonne histoire dessinée par Brian Ching et scénarisée par Ron Mars, et qui parlait d'un attentat fomenté par des Fallen contre Dark Vador. Donc, une histoire vraiment sympathique. Après, on retrouve Sacrifice, l'Empire Dièse 7, avec Boba Fett. Les dessins sont de Cam Kennedy et le scénario de John Wagner. Donc, j'ai envie de dire que c'est toujours un peu le problème avec avec Boba Fett, on n'a jamais vraiment d'histoire. Donc moi j'ai pas trouvé ça terrible, c'est encore une chasse à l'homme, bon, ça sert à rien d'extraordinaire. Bon, j'adore les dessins de Kennedy, mais la colorisation pour moi n'est pas très bonne comparée à ce qu'on peut retrouver dans les Dark Empire, qui sont des colorisations beaucoup plus pastel et beaucoup plus sympas. Ensuite, on va retrouver le secret de Tête Amie avec notre Jedi Mace Windu. Donc c'est une histoire de paradoxe temporel, les dessins sont assez moyens, ils sont signés Timothy II et les couleurs Michel Madsen, le scénario Fabian Nicieza. Donc paradoxe temporel rencontré par Mace Windu, moi j'ai trouvé ça un peu bidon. J'ai trouvé que c'était du domaine de l'incompréhensible, parce que bon, ils essayent de trouver une explication qui pour moi, ressemble à rien. Enfin bon, vous verrez bien. C'est un petit peu le problème des Tales, hein. On a des très bons, comme des moyens, comme des mauvais. Enfin, donc, mm-hmm. C'est toujours à trier. Mais c'est toujours agréable de retrouver ces histoires dans les magazines. Enfin, on parlera, de Star Wars Hasbro Toys R Us, c'est une petite perle que nous a donné la saga en BD. Hein? Donc dedans on voit s'affronter Jango Fett et Obi-Wan Kenobi. Tout ça en fait pour promouvoir toutes les produits dérivés de Hasbro et de Toys R Us, donc qui permettent de dire aux jeunes, voyez, vous pouvez inventer votre histoire. Donc là, on pourra remarquer aussi que c'est là où ils sont gaufrés sur leur couverture, Delcourt, parce qu'ils avaient mis Obi-Wan versus Boba Fett. Donc tout le monde se demandait comment c'est possible. Et ben non, ils se sont juste trompés dans le titre. Mmh. Et enfin, pour terminer, une très très bonne histoire. Écrite par Alan Moore, Devil World. Alors là, je dois dire que c'est un petit peu comme les contes de Moses Lay. Je remercie vraiment Delcourt de nous donner ça, parce que c'est vraiment déjà c'est des trucs qui sont introuvables, mm-hmm. et dont les scénarios sont vraiment exceptionnels. Donc ça pourrait être considéré comme des Infinities, c'est-à-dire en dehors de toute chronologie Star Wars. Et bon, on voit Luke s'échouant sur une planète et trouver une espèce de Jedi noir qui était en stase et qui cherchait à détruire tous les Jedi depuis X temps.
L'histoire de tous les fans de films.
Oui. non, parce qu'il y a Troops quand même.
Ouais, okay.
Il ne faut pas oublier, il y en a quelques-uns qui sont originaux. Mm-hmm.
Et puis la BD que tu parlais de Toys R Us, est-ce qu'elle fonctionne avec la continuité ou c'est complètement un infinity?
Absolument pas.
Ok.
Absolument pas. Bah, ce n'est pas fait, si tu veux, pour marcher avec la continuité. Hein. c'est fait pour donner envie à tout le monde de jouer avec les jouets Hasbro.
D'accord.
Donc, en fait, c'est simplement la poursuite entre Obi-Wan et Jango Fett. Enfin, c'est un simili poursuite Jango Fett Obi-Wan sur Geonosis, tu vois, entre le Slave One et le Delta 7. Mais qui se termine complètement différemment, histoire de dire, vous voyez qu'avec les jouets Hasbro, vous pouvez créer vous-même votre histoire.
D'accord.
C'est pareil, c'est des trucs qui sont introuvables.
Vas-y, Michel.
Juste une remarque, on ne joue pas avec les jouets Hasbro. On les laisse en boîte, on n'ouvre pas les figurines, tout reste bien emballé, on met ça dans les armoires, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, on ne touche pas. On ne joue pas, que ce soit clair entre vous et moi.
Je vois bien Michel en train de faire une poursuite avec avec son Delta 7.
Les boîtes qui se poursuivent.
One to blister, tu sais. Ah, mais les missiles n'arrivent pas à travers ce blister.
Michel comme président, fait... Michel comme président.
Moi, je joue avec mes boîtes, je fais des Tetris avec mes vaisseaux.
Bah oui, bonjour Raphaël.
Bonjour, pardon.
Je me disais aussi qu'on avait un nouveau, là.
Ah, pardon.
Michel, oui. Qu'est-ce que mentionnait Louis? Est-ce que c'est la même chose que les Comic Pack qu'il y a aux États-Unis?
À mon avis, oui, c'est la même chose, mais plus à la sauce de chez nous. Quoi.
D'accord.
Je pense
d'accord.
que ça va être exactement la même chose.
D'accord.
On n'a pas trop d'infos dessus, bizarrement, pour l'instant. Okay. C'est un petit peu une nouveauté, mais comme c'est expliqué, ce serait plus ou moins la même chose.
D'accord. Donc, on vient de l'entendre, Raphaël. Bonjour, Raphaël.
Bonjour tout le monde, pardon.
T'as un petit peu en retard.
Depuis une bonne vingtaine de minutes, déjà. Mm-hmm. Mais j'ai des soucis avec mon ordinateur.
D'accord.
Donc, j'ai été victime de la maladie des Jedi.
Du chikungunya?
Non, la gastro?
D'accord. C'est la maladie des Jedi, on est mal barré, hein. De Rebellion, Small Victories, Petite Victoire, donc comme j'ai dit précédemment, qui relie Rebellion 11 et 14. Donc contrairement au cinquième tome, Le Sacrifice de Akista, là on se retrouve avec une continuité avec le tome numéro 4, Mon frère, mon ennemi, et on se retrouve à suivre Dina Shan lors d'une tentative... de sabotage d'une station impériale de ravitaillement pétrolière. Non, enfin, c'est pas du pétrole, mais... Donc, les scénarios sont de Jeremy Barlow, les dessins de Colin Wilson et les couleurs de Will Glass. Bon, je dirais que les dessins sont assez moyens. Enfin, moi, c'est pas le type de dessin qui me branche. Je trouve que les visages, en fait, sont assez grossiers. Par contre, le point qui est toujours positif dans cette série, ça restera encore et toujours le scénario. Ça, c'est exceptionnel. Alors, comme dans le tome 4, on retrouve le Rebel One, qui est en fait un croiseur Providence, hein, le même que Grievous et la main invisible, qui a été récupéré par la rébellion. Et donc, on se retrouve avec une infiltration rebelle chez les impériaux. Non, c'est vraiment génial. Parce que c'est vrai également que... Bon, on a vu un peu à quoi ressemblait la rébellion... avec les films, mais on n'a jamais vu les actions concrètes entre plusieurs épisodes. Quoi. Donc voilà, ça c'est à se jeter dessus et ça a dévoré sans modération.
De mon côté, dans les nouvelles diverses, j'ai seulement quelques items à mentionner, dont deux nouvelles Clone Wars. La première, c'est qu'au Canada, nos auditeurs ont remarqué que Clone Wars a arrêté d'être diffusé par CTV après Bombad Jedi durant le temps des fêtes, mais c'était simplement pour une pause. Donc les épisodes vont être de retour dès le 18 janvier à CTV. Donc Cloak of Darkness va être diffusé le 18 janvier, Lair of Grievous le 25 janvier et Dooku Captured le 8 février, donc un petit peu de retard, mais tout de même, les auditeurs canadiens vont pouvoir reprendre le pouls de la série. S'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour les écouter, bien sûr. Il y a aussi une rumeur sur le DVD de la première partie de la saison 1 de Clone Wars qui serait le 25 mars. Qui serait possiblement aussi sur Blu-ray, donc les 10 ou 12 premiers épisodes. Donc, c'est à suivre. On va voir... on garde ça comme rumeur présentement. Et on verra. Moi, je suis déçu un peu de voir que ça serait en deux volumes. Je trouve que les séries américaines commencent à trop utiliser ce système pour sortir leur coffret. Et ça me dérange un petit peu. Tout pour faire de l'argent. Je vais terminer...
Pourtant, Star Wars, c'est pas le genre. Hein.
Ah, c'est sûr. Et un dernier truc que j'ai remarqué, qui est sorti de... J'ai vu ça sur le blog de StarWars.com. C'est un petit bidule qui s'appelle The Force Trainer pour les collectionneurs de ce monde, qui va coûter entre 90 et 100 $. C'est un petit truc qui permet de déterminer votre niveau de force. Donc, c'est tout simplement une version simplifiée d'un électrocéphalogramme. T'installes un petit bidule sur ton crâne qui détecte les ondes électromagnétiques de ton cerveau et les circuits...
Tu veux dire qu'ils peuvent trouver les midi-chloriens qu'on a en nous?
Exactement. et les circuits du petit bidule transfère le niveau de concentration, peu importe le niveau d'électromagnétisme qui émane de ton cerveau, et fait monter une petite balle de ping-pong dans un petit tube avec un ventilateur. Donc, plus il y a des ondes, plus le petit ventilateur va faire monter la balle de ping-pong, et tu vas arriver à des certains niveaux de... Si t'es un padawan d'un Jedi ou un maître, et puis supposément qu'il y a des phrases qui te parlent si t'as atteint un certain niveau, etc. Ou des conseils ou toutes sortes de trucs. Ça va être assez hallucinant comme comme petit bidule. J'imagine que les enfants vont vouloir ça, et même les adultes, juste pour s'amuser comme ça. Là.
Comme ça, on pourra le jeter contre un mur si jamais il nous dit qu'on est un padawan.
Ouais, c'est ça. Donc c'était tout pour ma part. Donc on va enchaîner immédiatement avec les nouvelles collections. On revient dans quelques secondes.
I have something here for you. Father's lightsaber.
Excuse me, sir, but that unit is in prime condition. A real bargain.
Your lightsabers will make a fine addition to my collection.
Public credits. The public credits are no good out here. I need something more real.
Hey, what are you trying to push on us?
No money, no parts, no deal.
Donc, de retour avec tout ce qui s'est passé du côté collection, et on va en profiter pour débuter aussi notre revue de l'année. Donc, à toi Michel et Raphaël, si tu veux rajouter des détails sur la conversation de Prodeur. Donc.
Il y a quand même pas mal de choses, il y a eu beaucoup de choses au courant de l'année. On va pas parler de tout, on va d'abord parler des dernières actualités, des dernières nouvelles. C'est bien que le mois de janvier est assez court, et les seules choses qu'on a eues, entre guillemets, d'intéressant pour ce mois-ci, sont l'annonce de deux nouvelles 12 pouces chez Sideshow, à savoir l'amiral Piet, mm-hmm, et le Sand Trooper Sergent, qui vient d'être mis en vente vendredi dernier, qui sont vraiment deux pièces très sympathiques pour les collectionneurs de 12 pouces. Et sinon, le petit truc kitsch marrant, amusant, qui ne sert à rien et qui est toujours de mise au niveau des collections, c'est le sabre laser de Mickey. Bon, on sait bien que Lucasfilm et Disney travaillent souvent ensemble. Ils font les week-ends Disney, ils développent des figurines. Bon, Mickey habillé en Jedi, tout ce qui s'ensuit. Et ici, ils viennent de sortir le petit sabre laser de Mickey avec le bouton d'activation au niveau au design de la tête de Mickey. Donc, on connaît très bien la tête de Mickey avec ses deux grandes oreilles. Donc, il sera sonore et lumineux. Et voilà ce qu'il y aura pour le mois de janvier. On n'a pas grand chose encore pour le moment. En plus, on est en pleine migration de serveurs sur Mintinbox, donc on n'a pas trop le temps d'approfondir dans les news. On ne sait pas tout publier non plus. On fait de notre mieux pour que ça aille au plus vite.
Sinon, pour moi, rapide.
Ah, il est rapide, ça, on peut pas dire, il est super rapide. Maintenant, il faut que tout fonctionne comme il faut. Sinon, au niveau du mois de décembre, chez Hasbro, il va y avoir deux nouveaux vaisseaux ont été annoncés. Le Super Voltour Droid et le Mania Guard Droid. Dans les figurines, on va recevoir de nouveau un Coleman Trebor, qui a déjà été édité lors de l'attaque des clones. Un Ewok. Il y a Luke Skywalker et Dina Shen qui vont être édités. Ainsi que deux officiers impériaux, dont un serait normalement le Capitaine Nida. ils ont annoncé aussi les tout premiers Transformers aux couleurs The Clone Wars. Donc l'ATTE qui se transforme en Capitaine Rex et le V-19 Torrent Fighter qui se transforme lui en Clone Pilot. Chez Lego, ils vont enfin sortir de l'attaque des clones le Solar Sailor, donc qui est le vaisseau de Dooku. Pour le moment, on n'a qu'une seule photo, on ne sait pas du tout s'il va y avoir cette espèce de grande voile qui sera déployable ou pas. On a juste une photo un peu pourrie même du vaisseau, mais ça reste aussi du Lego.
Ça serait plutôt fragile, hein, ça serait plutôt fragile avoir la voile et les câbles pour.
Oui, enfin, peut-être que la voile ne sera peut-être pas montée en briques. Ils vont peut-être enfin fournir un élément à part pour faire la voile. Enfin, ce serait intéressant de la voir, parce que sinon, c'est un peu ridicule. La forme du vaisseau reste un peu grossière, entre guillemets.
Si on voit la tendance, ils vont emballer ça avec un autre produit. Donc, vous allez devoir acheter l'autre produit pour avoir la voile.
Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, encore un troisième pour avoir le Dooku qui va dans le vaisseau. Qui mettra la voile.
En effet.
Il s'en suit. Et il prendra après une édition exclusive aussi.
Ouais, oh là là.
Une pièce en or dedans.
Oui.
Sinon, toujours chez Hasbro, mais du côté FX. Donc, il faut savoir que depuis la perte de licence Star Wars par Master Replica, c'est EFX qui a repris tout ce qui est réplique taille 1-1 de sabre laser, de studio scale, de casque. Mais c'est Hasbro qui a repris la gamme FX, donc ce sont les sabres taille 1-1, mais avec la lame lumineuse, comme on voit partout à toute convention Star Wars, les costumés Jedi qui ont souvent ce genre de sabre, ou même les fans pour faire les zigotos avec leurs sabres laser lumineux. Ils vont sortir le Dooku et l'Obi-Wan de la menace fantôme. Le Dooku, je me réjouis de le voir, je me demande comment ils vont faire, parce que... Bon, avec son manche qui est très particulier, j'espère que le rendu va être très très bon. Le Master Replica en taille 1-1 est magnifique. J'espère qu'ils vont pas le planter en FX, ce serait un peu dommage. Au niveau Gentle Giant, là ils annoncent un buste, le buste du Gaiden Longsnut, comme on l'appelle. Donc c'est l'espion qui suit Luke sur Tatooine dans Un Nouvel Espoir, avec qui prévient les Sandtroopers de la position de Luke pour l'arrêter. Ils vont sortir un nouveau monument statue, qui est le Capitaine Rex, donc dans Clone Wars. Donc les monuments statues sont les tailles 1-1, taille réelle. Donc ça va être assez énorme. Bon, ceux qui ont déjà Léa ou qui ont déjà Yoda, ça pourra aller très très bien avec eux. Toujours au niveau des bustes, chez Gentle Giant, il y a le Luke Hot avec son sabre laser, et il y a le Han Solo Hot aussi qui va sortir. Ce sont enfin deux personnages, deux bonnes figures de l'Empire, qui vont sortir, et à mon avis, on ne les verra pas avant 2010. 2010, ce sera les 30 ans de l'Empire. Ou alors, vraiment fin de l'année, ça va être quelque chose pour annoncer les 30 ans de l'Empire. Enfin, ces deux bus promettent beaucoup, ils ont l'air pas trop mal, Luke a l'air très bien au niveau du visage. Le Han Solo, on n'a pas encore trop de photos, mais on va voir ce que ça va être. Je reviens chez EFX, donc ils vont sortir leur studio scale du X-Wing, comme on en avait déjà parlé. Ici, la grosse nouvelle, c'est qu'ils vont sortir un second socle qu'on pourra acheter par après, qui lui est rectangulaire, qui est plus grand que le X-Wing, et il aura une cloche en acrylique 15 au-dessus pour le protéger de la poussière, ce qui est vraiment un truc idéal pour ce genre de vaisseau qui va faire 60 cm sur 65, ça va être colossal. Son tirage est de 838 exemplaires, c'est pas très habituel comme numéro, mais... En fait, FX s'est limité à ce qui était précommande, que ce soit au niveau des boutiques, que ce soit au niveau des particuliers sur leur site. Donc, ils ne vont pas éditer plus de pièces que ce qu'ils ont eu comme précommande. Okay. Donc, ceux qui l'ont précommandé, c'est très bien. Ceux qui ne l'ont pas précommandé, ça peut être un peu plus chaud pour se le fournir par après. Et il y aura une version signature, mais là, on ne sait pas encore si tout sera en version signature ou si une partie sera en version signature, donc avec une petite plaque avec la signature de Mark Hamill, qui
oh là
était
là.
Au départ réservé pour ceux qui le précommandaient sur le site de FX, et maintenant les boutiques chez qui on les a précommandés auront aussi des versions signatures. Maintenant la répartition, on n'en sait rien du tout.
Michel
Oui.
Michel, s'il te plaît, le tirage est à combien d'exemplaires?
Du X-Wing?
Oui.
838.
Ah, j'aime bien comment tu dis ça.
Il était prévu à 1000 exemplaires au départ. 838.
C'est bien.
La machine a brisé, donc ils pouvaient plus en produire.
Ouais, non, c'est ça. Ils ont cassé le moule après le 838e. Bon, il n'y en aura pas d'autres. Sinon, en décembre de l'année dernière, donc ça c'était les annonces de décembre de l'année dernière, mais entre la dernière émission et cette émission aussi de Star Wars en direct. Toujours chez FX, il y a le casque du clone capitaine, donc avec les décorations rouges de l'attaque des clones, chez FX qui est prévu. Chez Sideshow aussi, non, chez Sideshow on en a déjà parlé au niveau du Stormtrooper. Non, il y a le Stormtrooper Commander qu'on voit dans The Force Unleashed en 12 pouces, qui va être édité aussi chez Sideshow. Et il y aura un bouquin pour les collectionneurs absolument à voir. C'est le Comprehensive Guide to Star Wars Collectible, qui est réalisé par Gus Lopez et Duncan Jenkins. C'est un terrible, terrible livre. Ça va être vraiment une bible, à mon avis. Ça reprend, tous les prodeurs qu'il y a eu en Star Wars quasiment de 1977 pour les Belges, jusqu'à nos jours. Il va faire 984 pages, donc c'est vraiment énorme. Bon, okay. Et ça va reprendre que ce soit les figurines, les répliques, les bustes, les statues, les pièces, les boîtes de Kellogg's. Enfin, il va y en avoir énormément quoi, dedans. Et il n'est pas trop cher, je pense que c'est plus ou moins 60 euros. Je dois vérifier, mais je pense que le prix est plus ou moins de 60 euros, ce qui n'est pas excessif pour un livre comme ça, parce qu'il y aura toutes les variations, ça va être énorme. Et sinon, le petit kitsch du mois de décembre, c'est évidemment la luge Millennium Falcon.
Oh mon Dieu.
Donc ils ont sorti une luge Millennium Falcon qui est un grand rond avec donc on voit bien la forme du Millennium Falcon avec deux poignées sur le côté. Donc on s'accroche et on est parti pour les bonnes glissades. Et pour faire le foufou,
sur les pistes.
Voilà, c'est ça. Bon, on n'a pas l'air plus ridicule qu'habituellement. Il n'y a plus qu'à mettre sa bure de Jedi et prendre son sabre fixe et on est parti.
On va aller glisser sur la planète Hoth.
Voilà, exactement. Mais je vais laisser Raphaël faire la petite rétrospective de l'année. Donc ici, j'ai commencé décembre, on va aller à l'envers. Donc on va remonter de décembre jusqu'au mois de janvier 2008.
Excellent.
Raphaël.
Avec grand plaisir. Je reprends donc pour novembre 2008. Pour novembre 2008, au bon souvenir, c'est la sortie de la belle Leia Slave chez Sideshow en version exclusive avec un Salacious. Vous vous souvenez aussi qu'à cette époque, vous aviez la possibilité de pouvoir, on va dire, vous asperger, vous mettre de baume au cœur grâce à un super parfum. Et oui, c'était le parfum de Jedi qui sortait aussi avec sa petite... Eh oui, tu te souviens?
Non, j'avais aucune idée que ça existait.
Ben voilà, c'est pour vrai. La Saint-Valentin, on cherchait justement.
Alors, le parfum Jedi, pour ceux qui l'ont pas testé, j'ai testé, moi, le parfum Spider-Man. Bon, c'est sûr qu'il t'accroche au mur. Donc, je pense que le Jedi doit être pas mal non plus. Mais c'était en novembre, et vous avez loupé ça, je suis un peu triste. Mais bon.
Avec le parfum Jedi, tu es certain de repousser tout le monde avec la force.
Et tu peux pas avoir un parfum Sith, là, parce que ça craint, hein.
Non, c'est pas parfum, c'est pas répulsif, hein. Je vous rassure, parce que je vois que tout le monde commence à partir dans tous les sens. C'est un parfum. Okay. Qui était là pour attirer la petite charmante demoiselle. Et pas pour repousser la charmante demoiselle.
Faut pas octobre 2000. Tout le monde va s'étouffer, leur force choke, là.
Bah, t'as vu, il y a un internaute qui met dans les messages parfum senteur de Naboo par Yves Saint-Laurent. Sorti en 99.
À chaque fois que je prends la parole, ça y est, tout le monde, c'est le foutoir. Alors, octobre 2008, messieurs. Donc, c'était, on va dire, le petit plaisir de mon cher Michel Kotobukiya. Et il faut dire qu'il est ultra fan. Avait sorti une série concernant le Sith, Dooku et Grievous, Ventress, plus des pièces pour l'empereur. Vous vous souvenez quand on évoquait tout ça? C'était les fameuses séries où il fallait acheter l'ensemble des figurines pour constituer on va dire un personnage, et c'était déjà en octobre 2008. Septembre 2008, donc pour certains c'était la rentrée des classes, pour d'autres c'était un moyen aussi de pouvoir s'alléger financièrement, car c'était à cette époque où sortait le fameux Dark Vador en bronze sculpté par Laurence Noble. Vous vous souvenez, les 1m20, c'est 68 kilos, c'est 30 exemplaires, et sa modique somme de 18 000 euros.
C'est surtout ta carte bancaire qui s'en souvient.
Exactement. Et c'est à ce moment-là aussi... Et c'est aussi à ce moment-là où que Gentleman Jones avait annoncé, vous vous souvenez, tous les gens à cette époque-là nous sortent le gift de Noël, et là c'était le Cody Holiday, Et pour information, je l'ai toujours pas eu. Donc si quelqu'un l'avait, me donnait un petit tuyau pour le posséder, avec grand plaisir, je finance. Je vois votre silence.
Bon, bah, moi j'ai une, je vais pas te l'offrir.
Si t'as encore un truc à 18 000 euros, tu peux te brosser, hein.
D'accord. Le mois d'août, pour ceux qui avaient la chance de se faire bronzer au mois d'août pendant ses vacances de 2008, il y avait la sortie de Hasbro, Galactic Hero, à la sauce Clone War, avec des termes de Ascona, Dooku, Ventress, Anakin, Obi, Cody et Rex. C'était aussi l'occasion pour Sashu d'annoncer la sortie de son diorama, la mission diplomatique. C'était pour août 2008. Et voilà déjà 6 mois de passé. Après, nous étions en juillet, juillet fête nationale locale, qui faisait que nous avions aussi du côté Gentleman Giant et Star Wars Shop s'étaient associés pour poser, on va dire, des événements bien particuliers, à savoir au San Diego Comic-Con le mini-buste Air Dome Trooper, et chez Forbidden Planet, mais là pour Forbidden Planet, je vais quand même laisser Michel en parler tout à l'heure, le diorama Boba et Anne Carbonite était aussi partie de la, faisait aussi partie du dispositif. Donc ça, c'était tout pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, il y avait aussi une petite, on va dire, intervention de Kotobukiya, avec sa clan Clone War, dans lequel, comme j'avais expliqué, 3 clones, puis des pièces pour un 4e, pour faire un personnage qui était Yoda. C'était, j'en achète 4 pour en faire 5. Juin,
j'en achète 3 pour en faire 4.
J'achète 3 pour faire 4, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ah, pardon. Au mois de juin, vous prépariez vos vacances, en espérant qu'il fasse beau pour juillet août. Et ben, dans la même série, vous pouviez à l'époque vous sortir avec le Hasbro. Vous savez, la sortie, la série de BD d'Empire Comics, c'était le fameux Hasbro T utilisé par Big, Darklight et autres rebelles avec le logo de la rébellion, plus une figurine exclusive, à savoir le Obi de Cleavian, si je prononce mal peut-être. Après, il y avait on va dire un petit missile, comme on dit déjà quand quelque chose vient qui est extraordinaire, magique, un buzz, un missile, aidez-moi.
Un missile.
Un missile. Voilà, juin.
Qui vote pour missile?
Qui vote pour missile?
Voilà, bon, je vote pour missile. Je dis missile.
Missile. Sortez en juin un missile intergalactique meeting box. Sortez sa pièce Boba Fett Gold. Une pièce exclusive. Pourquoi vous rigolez?
T'aurais pu faire exclusive. Vendeur, quoi.
Ben, en fait, si quelqu'un la vend, c'est qu'il la possède, et je serais curieux de voir, parce que ça a été vraiment un missile, une pièce très bien, très finie, gold, série ultra limitée, et c'était exclusif. Et c'était au mois de juin, et ce fut vraiment un missile dans l'univers de Star Wars et des collectionneurs. Au mois de mai, sortaient des choses un peu particulières, BFX annonçait la sortie de ses casques de la série Macquarie, à savoir le Dark Vador. Sortait aussi le Clone Trooper Attack of the Clone Concept, le X-Wing Studio Scale et le Sabre Obi et qui a dit Mundi. Hasbro, toujours dans ses séries Galactic Hero, sortait, vous savez, le petit R2-D2 avec son service sur la tête plus l'IA Slave, le Jajar, ouais, toute une série de personnages, mais si vous voulez que je vous sorte la liste, préparez-vous, j'en ai pour un petit moment. Non, sortez aussi... Bon. Sortez aussi du côté de chez Hasbro, toute la série Droid Factory, vous vous souvenez, avec les semi-packs, plus une pièce et 3 PO, plus une pièce pour, avec une fois de plus, constituer à partir de plusieurs achats un personnage complémentaire. Vous achetez 10 blisters, vous en avez un 11e gratuit. Moi, je sais pas si c'était gratuit le 11e, parce qu'il fallait acheter 10. Sideshow annonçait lui aussi un nouveau diorama avec Ambush on Hot, et l'apparition... On va dire, alors attendez, après le parfum, au mois de mai, il y avait aussi la canne à pêche Star Wars, en forme de sabre laser. Vous vous souvenez?
Oh, ce truc de geek ultime.
Moi, je vais dire,
ça n'a aucun sens.
Le parfum et la canne à pêche, franchement, je pense qu'on était bien outillés. Je vais laisser la parole à...
Toi aussi, pêche ton poisson avec ta canne à pêche laser.
Ouais, c'est ça, c'est, voilà. pour les geeks poissons.
Je vais laisser Michel... Michel, finir les 4 derniers mois, s'il te plaît, Michel.
Oui, pas de souci, je vais reprendre le flambeau. Il avait dit quoi pour mai? On m'avait fait ce qu'il te plaît, donc au mois d'avril, ben, on a joué avec nos poissons. À ce moment-là, Gentle Giant a annoncé la sortie du TIE Pilot en mini-buste, qui était pas mal foutu. Et il y a une version aussi qui est différente, qui est le TIE Pilot Chase, En fait, dans les caisses de 6 minibus, il y en a 5 normaux, et le 6e est exclusif. Il a une bande grise en plus sur le casque qui représente le chef des pilotes. Donc là encore, c'est le truc, ben, il faut en acheter 6 pour avoir une exclusivité. Hasbro, et c'est ce mois-là aussi que Hasbro a annoncé son terrible et merveilleux Millennium Falcon, le nouveau, enfin le dernier Millennium Falcon, le BMF comme on l'appelle, qui est, c'est une sommité, c'est un monstre, il est tellement truffé de détails, de gadgets, il est tellement ludique et ne fût-ce que la taille par rapport à ceux qui ont connu les premières éditions, que ce soit le vintage ou alors le Power of the Force 2. Il y a un monde de différence, quoi. C'est vraiment le jouet ultime à garder en boîte. Ça, on en achète deux. Il y en a un qu'on garde en boîte et l'autre qu'on déballe pour pouvoir vraiment en profiter. Il y a des loupiotes un peu partout. Il y a du son. Il y a la rampe d'embarquement qui descend tout doucement. Non, il est vraiment merveilleux. Je pense que c'est la plus grosse réussite au niveau de Hasbro sur cette année-ci, qui a fait un des plus gros coups avec la TTE. Mais la TTE, on en parlera pour le mois de février. EFX, c'est là qu'ils ont fait leur toute première annonce, qui était la réplique du casque Stormtrooper. C'était juste au moment où ils ont repris la licence à Master Replica. Master Replica avait édité le casque de Stormtrooper, mais ils n'en ont pas édité assez. Ils n'avaient plus droit à le commercialiser, comme leur licence n'était plus valable. EFX en a réédité 500, et qui sont partis évidemment comme des petits pains à ce moment-là. Mm-hmm. En mars, là, il y a eu très très peu de choses. Ce que je vais retenir de ce mois-là, c'est Sideshow, au niveau des dioramas, encore une fois, qui ont sorti le Padmé contre le Nexus dans l'arène de Géonosie. Au niveau des dioramas, ils sont vraiment remplis d'idées chez Sideshow. C'est vraiment pour moi une de leurs forces, quoi. Je regrette un petit peu l'échelle petite, mais c'est vraiment un très très bon truc. Au mois de février, donc, à la Saint-Valentin, c'était à ce moment-là qu'il fallait sortir le fameux parfum, mais ils y ont pensé trop tard. C'est le mois de février, c'est aussi le mois du Toy Fair de New York, qui est le salon du jouet le plus attendu par les collectionneurs, entre autres les Comic-Con, mais c'est vraiment le mois où tout le monde balance ces trucs, quoi. Chez Gentle, il y a eu l'exclusivité de Reigns, le minibus Reigns, qui est une exclusivité pour Rebel Scum, donc l'énorme site de collection US qui sont les maîtres incontestés dedans. C'est la première exclu Gentle pour un site, je veux dire, qui n'est pas une boutique. Il y a aussi un nouveau licencié ce mois-ci, enfin pendant le mois de février, qui est Diamond Select, qui a repris donc une partie de la licence Star Wars pour adapter leur product. Ce sont des genres de poupées entre la 12 pouces et l'échelle 1/4. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça reste à souligner. Là, c'est à ce moment-là que Hasbro a sorti son ATTE, du moins l'annonce. Et là aussi, ça a fait un boom énorme, parce que ce vaisseau est plein de, lui aussi, truffé de plein de gadgets et plein de trucs. Il est énorme, il est super ludique, on sait mettre plein de persos dedans, on sait mettre des clones tant qu'on en veut, on sait envoyer des missiles, c'est pour moi la seconde meilleure réalisation de l'année chez Hasbro. Lego, eux, ont annoncé leur gamme Clone Wars et The Force Unleashed à ce moment-là. Donc c'était au Toy Fair. En février, là on sort un petit peu de la collection, mais ça reste quand même un peu dans le domaine. C'est Official Picks, donc qui font toutes les dédicaces et les autographes vraiment officiels au niveau de Star Wars et autres films, qui ont réussi à avoir Harrison Ford, et c'est pas n'importe quoi, parce que pour que Harrison Ford signe des reproductions Star Wars, il en faut beaucoup, quoi. Il a toujours refusé de signer à un fan ou quoi, une photo le représentant en solo ou quoi. Il y a un petit peu d'animosité ici, maintenant, bah, il s'est bien rattrapé avec Official Picks, et il a signé aussi le Faucon de Master Replica.
Mais ça doit être édition très très limitée.
Je ne saurais plus te dire le nombre de limitations, mais tout est parti comme des petits pains une fois que ça a été mis en vente sur le site d'Official Picks. C'est vraiment parti. Bien que les photos n'étaient pas spécialement super choisies, avoir un autographe d'Harrison Ford pour les collectionneurs d'autographes, c'est une sommité. Parce que vraiment, pour l'avoir...
Ce fut rupture tout de suite. Oui, je disais à Michel, ce fut rupture tout de suite, parce que je fais les autographes. Et je peux vous dire que malgré le prix qui était quand même pas pas négligeable, ça fut rupture tout de suite. Et ce que dit Michel est vrai, on aurait quand même aimé d'autres photos que celles qui avaient été choisies. Mais pour qu'Harrison Ford signe, c'est déjà vraiment un exploit. En tant qu'elle. Ah ouais.
En tant qu'elle. Et on va terminer alors par le mois de janvier 2008, comme ça on aura parcouru les grands points de l'année complète. Mm-hmm. Ben là encore une fois, c'était le mois de l'annonce du successeur de Master Replica qui était EFX, et de Hasbro pour les sabres FX de la gamme Master Replica à l'époque. Et on a eu aussi, petite fierté nationale, le premier Gentle Giant exclusif pour la Belgique. C'est pas le plus beau buste, je vous l'accorde, mais c'est une petite fierté quand même, qui est le Darth Maul holographique qui a été édité pour le Star Wars Exhibition Brussels. Donc voilà, ça c'est petite fierté nationale et petit travail personnel dessus, donc c'était à souligner.
Vous voilà mentionnez...
pour la revue de... Oui?
Vous mentionnez EFX, est-ce que au cours de l'année, il a été un bon remplaçant à Master Replica?
Oui, enfin les promesses qui sont là, ils les tiennent. Au niveau des casques, ils sont magnifiques. Les casques qu'ils ont édités, ils sont magnifiques. Au niveau des sabres, il y en a pas encore de commercialisés, donc c'est dur de juger un petit peu sur le travail à ce niveau-là. Maintenant, on attend aussi beaucoup le X-Wing FX, justement le Studio Scale. Et là, on va voir s'ils valent vraiment vraiment le si on va être à la hauteur de Master Replica. Au niveau des casques, pour moi, il y a pas de souci. Ils les valent quoi. C'est pas moins bon.
C'est bon. Si je vous demande à tous les deux, messieurs, quel a été votre point fort côté prodeur cette année et quel a été le point faible côté prodeur, le bon et le mauvais cette année côté prodeur? Commencez par Louis, ouais. Par Michel.
Ouais, c'est très dur à dire parce que chacun a un petit peu son avis personnel dessus. Mm-hmm. Ça va être très dur d'être objectif. Je vais peut-être dire, pour moi, le meilleur qui a été sorti cette année-ci. Non, c'est même pas cette année-ci, c'était l'année dernière. Pour cette année-ci. Ouais, non, mon gros coup de cœur, ça va pour la Léa Monument Statue taille 1-1. Donc, édité par Gentle Giant, qui est la Léa Animated, donc dans le style très, très caricatural des maquettes animated Gentle Giant. Ça, c'est vraiment, pour moi, une des réussites, que ce soit au niveau design... au niveau prix, bon, bah, ça se tient, même si c'est pas spécialement bon marché. Pour moi, c'est une des réussites. Mais il y en a beaucoup. On peut pas passer non plus à côté du Faucon Hasbro. Il y a tellement de choses. Bah, le plus mauvais, ça, on en a plein. Par exemple, je peux dire ici le parfum ou je peux dire la luge. Pour moi, il y a trop pour avoir un jugement vraiment objectif sur tout ce qu'il y a, quoi. Il y a énormément de très bonnes sorties et il y a énormément de très mauvaises sorties, quoi.
Et toi,
il y a des mauvaises surprises aussi chez les producteurs, que ce soit un manque de finition. Chez Gentle, on a beaucoup ressenti ça, un manque de finition au niveau de leur mini-buste. Est-ce qu'ils ont changé d'usine de production? On n'en sait rien. Donc sur ce coup-là, on est un peu déçu sur certaines pièces.
Et voilà, toi, Raphaël?
Moi, les tops, la pièce gold de Meeting Box, mais ça, vous le saviez déjà. c'est vrai, parce que comme vient d'évoquer Michel... déjà, en tant que collectionneur, on n'a pas tous, on va dire, la même culture du jouet. Certains vont être, ont trouvé par exemple tel produit super mal fini, d'autres super bien. Pour revenir à ce que disait Michel, oui, c'est vrai que la princesse Animated 1-1 présentait un avantage malgré ce que Michel n'a pas validé. C'était son prix, restait quand même accessible pour une pièce de cette dimension-là, cette année, ou l'année dernière, parce qu'on est en 2009-2008, c'est un peu difficile pour moi. Après, dans les flops et dans les tops, c'est vraiment problématique, parce que Michel va trouver un produit très bien, et moi je trouve un produit très mal, et vice-versa, les flops...
Je demande pour toi, là, pour toi, quel était
pour moi,
ton top et ton pire.
Mon pire, la cadence de sortie des jouets.
D'accord.
Pour moi, c'était pire cette année, dans le sens que...
Trop précipité
Non, un peu tout et n'importe quoi.
Ok.
Tu vois et puis, beaucoup de déceptions par rapport à des grandes attentes. Je prends un exemple qui est peut-être pas prodeur, mais celui du jeu vidéo, avec les jeux qu'on attendait avec impatience. Et puis, une fois qu'on l'avait entre les mains, ben, c'est un jeu vidéo comme les autres, quoi. Un de plus. Donc... Dans mes tops, j'ai trouvé que Hasbro avait fait des petits efforts sur leurs figurines au niveau finition. Mais après, Ça, c'est vraiment la question piège, quoi. Donc, je tombe dans le piège et je botte en touche, lamentablement.
Non, oui, c'est ça, c'est comme je disais, c'est très très dur.
Mm-hmm. Ouais.
D'accord.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le vaisseau Hasbro qu'ils ont sorti, j'ai eu la chance de le voir et de le voir déplié est vraiment incroyable, quoi. Mm-hmm. Mais bon, trop. Trop et pas assez suivi, si je peux me permettre. Voilà.
D'accord. Donc, merci de vos commentaires. Sur ça, on va prendre une petite pause quand même et puis on va revenir après avec la suite de la revue de l'année 2008. À tantôt. Prison when I rescued you, cell block AA23, knee deep in garbage cause I followed you, well I marked your royal pedigree, and when the walls were closing in, I thought I'd end up skinny, to say I had a crush on you would sound too silly, lay, lay, lay. Lay, 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 I love you. So be a solo with me. I was an ice cube you defrosted at. A kiss to wake me from my sleep. You were in chains while I fought Boba Fett. The bat, the tracks were running deep. I wouldn't like to see you in that steel bikini. Let's run away, I'm feeling far too Tatooine. Oh, lay, 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 I love you. Just you and me, and Chewie makes me. Lay, 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 I love you. So be a solo with me. Well, I may just some scruffy looking reporter, acting like I've not a single care. But I know I'd hawk the Falcon just to be with her, mesmerized by her Danish hair. What's in store for us now that your father's army fell? But I know the Force will always be with us, because Obi-Wan has taught you well. This ain't no Jedi mind trick, I ain't no rookie. But if you don't love me back, well, you can kiss my Wookiee. Oh, lay, lay, lay. Solo with me. Lay, 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 I love you. Just you and me, and Chewie makes three. Lay, 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 I love you. Be a solo with me. Be a solo with me.
Solo with me. Hi, this is Matthew Stover, author of the Revenge of the Sith novelization, and you are listening to Star Wars on Direct.
Et nous voilà de retour à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Nous poursuivons immédiatement avec la revue de l'année 2008. On va se concentrer un peu plus présentement sur la littérature, donc Henri, c'est à toi.
Oui, alors l'année 2008 a été bien remplie. Donc je vais faire mois par mois. Déjà, je vais peut-être commencer par les livres français qui n'ont pas été nombreux. Mm-hmm. Donc on a commencé l'année le 28 février avec le premier Dark Ben qui est sorti chez Fleuve Noir, le chemin de la destruction, Padre Carpichin. Donc c'était un livre bien apprécié des fans. Donc je crois qu'il a fait aussi un bon succès en France. Mm-hmm. Le 24 avril, on a eu Allegiance en français de Timothy Zahn. Donc ça a été, je crois que les avis étaient un peu partagés sur ce tome-là.
En effet. Je dirais que, à part la trilogie de Tron, là, puis peut-être la duologie de la main de Tron, Timothy Zahn a baissé beaucoup dans mon estime depuis ce qu'il a fait par la suite avec Allegiance et Outbound Flight n'est pas très probant, disons-le.
Effectivement. Ensuite, le 26 juin, on a eu le 3e République Commando qui ont laissé le titre anglais True Colors. Donc ça, j'avais hâte de le lire parce que j'avais pas eu le temps de le lire en anglais, même en l'ayant acheté. Donc je l'ai dévoré parce qu'il était vraiment très 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 bon. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu très très envie après d'avoir Order 66. Mais c'est vraiment Karen Travis, y a pas de doute, elle fait déjà partie des meilleurs auteurs de la saga, je pense.
En effet.
Ensuite, on a enfin eu le premier héritage de la Force le 21 août dernier. Donc c'était pas heureusement après la fin de la parution en Amérique. Donc on a eu le premier qui s'appelle, si je me trompe plus pas, Trahison. Donc ça commençait la saga Héritage de la Force. Donc moi j'avais un bon souvenir. Déjà on se demandait ce qui allait pouvoir se passer et tout ça. Mm-hmm. Ensuite le 25 octobre, on a eu la sortie de l'étoile noire de Michael Reeves et
Perry.
J'ai un trou. Ouais, Steve Perry, effectivement, oui. Que ça aussi, les avis ont été un peu partagés à sa sortie. Mm-hmm. Donc certains, moi je l'ai bien aimé, certains l'ont pas. C'était un peu aussi partagé. Je sais plus si tu l'avais aimé, toi, Dani.
Ouais, ben je dirais que c'est plus de voir un peu l'arrière-plan de ce qui se déroulait sur l'étoile noire, car on voit pas vraiment des personnages connus. Donc, si vous connaissez Michael Reeves puis Jim Perry, vous allez revoir des personnages qu'eux ont introduits dans l'univers étendu dans leur roman. Mais si vous ne les connaissez pas, c'est des nouvelles personnes carrément et il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voir ce qui se passait à l'intérieur, c'était quand même bien, là.
Ouais, effectivement. Justement, on n'avait aucune envie, c'est que les personnages meurent, mais je ne gâcherai pas le plaisir pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Ensuite, le 27 novembre, donc seulement un mois après l'Étoile Noire, on a eu la novélisation The Clone Wars de Karen Travis, donc qui est l'histoire du film qu'on a pu voir au cinéma en août. Donc encore une fois, moi j'ai été un peu partagé par contre sur ce livre, donc d'autres l'ont bien aimé. Moi, je l'avais trouvé un peu trop simplifié comparé à certains de Karen Travis. Donc,
Je crois qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit aussi développé, parce que dans ses romans à elle, donc les Republic Commando, elle a tellement mis d'emphase sur le développement de personnages, c'est tellement profond que peu importe qu'est-ce qu'elle va faire, qui va sortir de ce moule, on va trouver ça plus simplifié. Moi, j'ai quand même trouvé ça... on allait vraiment dans la tête des personnages. Donc, c'était vraiment un plus par rapport au film de Clone Wars.
Et on a terminé l'année le 11 décembre dernier avec le second héritage de la Force, Descendance, qui est aussi de Karen Travis. Et donc, on retrouve un de ses personnages préférés, Boba Fett. Mm-hmm. Aussi un très bon roman.
En effet.
Ensuite, on passe aux sorties américaines. Donc, on repart en janvier avec la sortie d'Allegiance de Timothy Zahn, dont on parlait il y a quelques instants. Ensuite, le 26 février, le 8e Legacy of the Force, qui est c'était...
Invincible?
Non, Revelation.
Revelation, ok, oui.
Ouais. Qui était de Karen Travis aussi, donc un très bon roman. Ça, c'est... Ça déroge pas à la règle. Mm-hmm. Je le montre à la caméra. Donc, c'était évidemment Jason Solo qui est encore... qui est au fin fond du côté obscur. Ensuite, si je me trompe pas, il y a rien eu avant le 13 mai avec le dernier Legacy of the Force par Troy Denning, qui donc est, comme tu disais, le titre Invincible, qui a laissé un peu les gens aussi un peu partagés sur cette fin de série parce que quelquefois, pour certains, dont moi, j'ai trouvé que ça se terminait un peu en eau de boudin. Donc ça, je trouvais que ça, c'était un peu trop court pour conclure cette série intéressante.
Il a laissé donc, quand même beaucoup d'éléments en l'air, donc on va voir comment que Fate of the Jedi ça va se conclure, je dirais, certains de ces éléments, et Blood Oath, bien sûr.
J'espère, parce que un truc qui manquait vraiment, c'était ce chat Nyathol qu'on n'a pas du tout vu. C'était vraiment un personnage qui manquait pour le roman. Mm-hmm. Ensuite, le 24 juin est sorti le premier Coruscant Nights de Michael Reeves. Oui, c'est ça. Michael Reeves, donc avec Jax Pavan, le fils de Lorne Pavan qu'on voyait dans Shadowhunter. Donc c'est aussi un peu des petites enquêtes. Moi, j'ai bien apprécié ce premier tome.
C'est rien d'extraordinaire, mais c'est une bonne histoire à suivre. C'est divertissant quand même.
Bah, ça change aussi des personnages principaux, donc c'est un peu rafraîchissant, donc tout de suite, ça, on apprécie un peu mieux. Mm-hmm. Ensuite, pas de sortie avant le 16... Pardon. Mes petits papiers sont un peu bifouillés. le 26 août, le second Coruscant Nights est sorti, est paru, qui s'appelait...
Street of Shadows.
Ouais, voilà, merci. Donc là aussi, ça peut se lire un peu séparément, donc mais c'est toujours avec les mêmes personnages, donc même chose, une enquête bien sympathique avec toujours les mêmes personnages. D'ailleurs, le droïde est toujours excellent.
Ce que je voudrais mentionner peut-être dans ce roman-là, qui est un de mes points faibles cette année, c'est le fait que, spoiler alert peut-être. c'est très concentré sur Aura Singh, la chasseuse de primes que l'on voit brièvement dans La Menace Fantôme et dans les BD, et elle meurt dans ce roman, ce qui se passe, je crois, immédiatement après, c'est entre l'épisode 3 et 4, je crois, que ça se passe, cette série-là. Et puis elle meurt.
On la revoit dans Legacy of the Force. Ben
exactement, c'est ça l'erreur.
Hein? Ah oui? J'ai même pas fait attention.
Et puis il y a aussi une erreur de Michael Reeves, je me souviens plus exactement, mais je pense qu'il s'est trompé de 10 ans dans la date de La Menace Fantôme là, ou quelque chose comme ça. Là. Donc il a avoué son erreur de date, là. Mais le fait que Aura Singh est passé. C'est qu'il y a quand même des gens chez Lucasfilm qui sont supposés regarder ces choses-là. Donc, avoir laissé passer, surtout le fait que Aura Singh a réapparaît par la suite, décevant.
Ça va être encore Leland qui va devoir s'occuper de tout ça.
Ouais, mais on va en parler plus tard.
Il est trop occupé, Leland. Il est trop occupé. Il faudrait qu'il gère la merde par The Clone Wars, là.
En effet.
Faut pas lui en demander trop, hein. Aura Singh, surtout vu sa tête, je crois qu'elle peut attendre.
Tu peux continuer, Harry.
Voilà, donc ensuite... pardon, je me suis un peu emmêlé encore les pinceaux. J'ai oublié de... Je repars un tout petit peu en arrière. Avec le 19 août, la sortie de The Force Unleashed, la novélisation du jeu vidéo du même nom par Sean Williams. Donc là, c'est très spoiler, parce que pour les gens qui n'avaient pas joué au jeu, c'est la version officielle de l'histoire qui était racontée. Mm-hmm. Donc là aussi, on découvre donc l'apprenti secret de Dark Vador... à ses ordres, qui veut détruire l'empereur, et donc tout ça. Donc c'est encore Sean Williams, il nous avait habitué à des bons romans, donc j'ai bien apprécié aussi celui-là.
Il est quand même été au top 10 des best-sellers du New York Times pour un livre basé sur un jeu vidéo.
Oui. C'est pas celui-là qui a atteint le premier, je crois que c'est le dernier Legacy of the Force qui l'a atteint.
D'accord.
Si je me trompe pas. À moins que ce soit celui-là. Ah, c'est peut-être Force Unleashed qui a atteint le premier rang d'ailleurs, si j'ai en y repensant. Donc, ensuite, 16 septembre, le 4e République Commando, Order 66, qu'on a d'ailleurs résumé lors d'une précédente émission.
Excellent.
Donc là aussi, ça, ce qui conclut évidemment, oui, c'est excellent. Ce qui conclut la série République Commando de Karen Travis, avant sa nouvelle série Imperial Commando. Donc là, on finit quelques histoires de personnages, mais qu'on va retrouver par la suite. Donc, comme tu disais, Danny, c'est un très très bon roman encore. Bien, plein d'action, plein de bonnes choses sur les personnages. Un très bon roman, comme nous habituait Karen.
Dans le fond, c'est simplement une transition d'époque, parce que c'est la série, elle change de nom, mais c'est la même histoire qui continue dans le fond.
Oui.
Avec Imperial Commando.
Oui, effectivement. Ensuite, sorti le 21 octobre, Millennium Falcon, de James Luceno. Donc là, certains, ils ont trouvé aucun intérêt à ce roman, vu qu'il parlait seulement du Faucon et de son histoire, ils ont trouvé que c'était un roman inutile. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau roman de transition, donc c'était un peu rafraîchissant, donc on s'inquiétait pas des grands secrets de la galaxie, on s'occupait d'un truc un peu plus sympathique, on apprenait un peu à connaître Alana, qui est la fille adoptive des Solos. Mm-hmm. Donc moi, j'ai trouvé intéressant quand même.
Moi, c'était un de mes points, un des moins bons points pour moi, c'est la fin de ce roman. On a parlé de long en large lorsqu'on a fait la critique, mais le livre dans son ensemble est très bon, mais la fin, pour moi, gâche tout. C'est vraiment une fin atroce dans le sens que c'est vraiment dommage pour le livre que là, ça se termine comme ça. Donc...
Je suis vraiment pas dans l'ordre parce que je viens de voir que j'ai oublié de mentionner le 26 juillet la novélisation de The Clone Wars qui est sortie très peu de temps avant le film.
Non mais c'est pas grave.
On l'a mentionné la sortie de.
Oui, la version française.
Ah d'accord.
Pitié, ne fais pas de résumé.
Henri a un peu de mal, je trouve, mais bon, je me permettrai pas de porter un jugement, moi.
Ouais, mais c'est juste qui.
C'est mes petits carnets.
Il fait jamais les émissions à jeun.
Je me drogue au Perrier, moi. Non, c'est juste que je fais mes petits cartons et quelquefois, évidemment, avec les changements de date, c'est plus tellement dans l'ordre dans mon petit carton et comme
un petit apéro, Henri.
Alors, c'est toi qui t'appelles Ares Pastis hein, aussi, hein. Donc.
Bah oui, mais attends, moi j'arrive à rester concentré, même bourré.
On voit l'habitué, hein.
Les alcooliques.
Donc, oui, bon, donc 26 juillet, c'était la sortie de The Clone Wars de Karen Travis. Donc, on le passe. Mm-hmm. Donc ensuite et maintenant, on termine l'année avec sortie il y a quelques jours, enfin il y a deux semaines. Le 30 décembre dernier, Luke Skywalker and the Shadows of Mindor par Matthew Stover, qui est un livre que j'attends avec très très grande impatience, car Stover nous a habitués à vraiment des meilleurs romans dans l'univers étendu avec les premiers Timothy Zahn.
Je vais te dire, j'ai seulement lu les trois premiers chapitres jusqu'à présent, que j'ai eu le temps de lire avant les fêtes. Non, je dirais rien, mais c'est excellent, les trois premiers chapitres, donc... J'ai très hâte d'avoir le temps de lire la suite.
Ouais, parce que je me souviens, j'avais déjà eu une première claque avec Le Traître. J'ai eu une seconde claque énorme avec la novélisation de l'épisode 3. J'ai pas un très grand souvenir de Point de Rupture qu'il faudrait que je relise un jour pour y en mettre bien, mais je pense qu'il était aussi excellent, mais celui-là, je l'attends avec une très très grande impatience.
C'est ça. Je peux peut-être te rappeler dans Shatterpoint la scène comme dans un moulin ou d'une grotte parce qu'il se faisait comme décapiter les entrailles ou quelque chose comme ça avec un bouclier, là. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Non, mais il y a une scène qui revient depuis quelques jours sur SVU dont je me souvenais aussi, c'est Mace Windu contre les canonnières. Mm-hmm. Si je me souviens, ils sautent dans les airs un peu partout mm-hmm. pour atterrir dans l'intérieur des canonnières à des centaines de mètres dans le ciel.
Et je vais peut-être rajouter à ta liste le roman Wild Space. Je crois que tu ne l'as pas mentionné. De Karen Miller.
Ah oui. Bon, ben, faut vraiment que je mette en ordre mes petites fiches là. Qui est effectivement sorti le 9 décembre.
Mm-hmm. Qui est
sera la première pierre.
Qui est excellent d'ailleurs. Karen Miller, elle est pratiquement à son premier roman tombé dans mes favoris, dans mes auteurs favoris, simplement parce qu'elle est allée chercher des éléments qu'on n'avait jamais vus. Tu sais, des éléments qui se passent juste avant que les Anakin et Padmé entrent dans l'arène de Geonosis. On voit beaucoup de choses qui se passent dans leur tête, comme la scène qui sont tous les deux au lit. C'est tout nouveau et on n'a jamais vu ça dans l'univers étendu et même les films, etc., etc. Donc c'est et puis on développe énormément. Tu sais, j'en profite pour faire une mini critique. On en profite énormément pour montrer la relation entre Bail Organa et Obi-Wan. Quand on les voit dans l'épisode 3, ils sont très copains dans le sens que ils s'entendent très bien. Mais d'après le livre, ça a pas toujours été ça. Obi-Wan et Bail se détestent, mais ne s'entendent pas du tout et ils partent à une mission pour aller chercher un artefact Sith et puis ils doivent s'entraider tout au long et ils deviennent des bons amis au cours de l'aventure. Donc c'est peut-être un des éléments qui fait que par la suite ils sont plus copains qu'au début. Et je pense quand Léa mentionne dans son hologramme dans A New Hope, mon père a servi avec vous Obi-Wan entre guillemets durant la guerre des clones, etc. Donc on voit un peu ce côté-là. Il y a beaucoup de développement de personnages. Il n'y a pas très beaucoup d'action entre les deux, Obi-Wan et Bail Organa, quand ils se déplacent vers la planète mystérieuse. Mais je veux dire, c'est quand même excellent comme roman.
Vivement si l'adaptation au cinéma.
J'en doute.
Ah mince. Ouais,
mais je sais qu'elle a eu un grand succès aussi avec sa trilogie en Amérique de livres de fantasy d'ailleurs, dont le premier tome est sorti il y a quelque temps, il y a pas tellement longtemps d'ailleurs, en grand format en France.
D'accord.
Et je crois qu'elle avait eu aussi un très très grand succès avec son livre, donc c'est sûrement une auteure qui monte dernièrement.
Mm-hmm. J'ai hâte de voir la suite. Le seul côté négatif pour moi cette année, c'est que les livres Clone Wars ont un format assez repoussant. Le format des livres, donc enfin.
J'ai vu ça, ouais.
La guerre des formats encore.
Eh oui.
Ben, c'est ni un poche ni un grand format, donc c'est pas pratique pour ranger.
Et c'est très très souple.
Variation de figure.
Ouais, franchement.
Donc c'est tout pour toi, Henri?
C'est fini, ouais.
D'accord.
Ah, enfin.
Attends, je vais pourrir ta chronique, tu vas voir.
J'ai rien dit de ta chronique, j'ai trouvé qu'elle était très bien, tu t'es pas trompé une seule fois, t'as pas eu besoin de tes fiches, je te félicite. Non mais...
Je vais me venger.
quelle ironie, sérieux. Oh mais Raphaël, tu devrais être lapidé en place publique, quoi.
Donc, vas-y Louis, c'est à ton tour pour les comics cette année.
Bon, c'est alors moi, pour éviter
dans
de faire
comics,
comme Henri, j'ai rien à dire. Comme ça, c'est bon.
Dans les comics, il y a Dany, Raphaël et toi.
Attends, là tu sors, tu prends la porte, mais surtout tu reviens pas. Toi.
Attends, il fait froid dehors.
Mais justement, c'est ça qui est bon, ça vivifie le corps et l'esprit. Bon, alors parlons du côté des Amériques en vitesse, parce que bon, le problème des comics, c'est que c'est toujours des séries, donc quoi qu'il arrive, elles continuent depuis quelques années. Là, en 2008, on a quand même eu le gros événement principal qui était la série Vector. Mm-hmm. Donc Vector, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est simplement un crossover, comme on a pu voir par exemple avec Civil War pour les Marvel, où on retrouvait des Superman qui croisaient des Iron Man, et etc. Mm-hmm. Donc là, c'est Vector, ça se passe sur un créneau temporel de 4000 ans, 4 époques pour une histoire, si on peut dire. Mm-hmm. Donc on a un vecteur, un personnage vecteur qui s'appelle Céleste Morn, qui sera présent dans toutes ces époques et qui fera le lien. Donc c'est une sombre histoire de Sith et de Ra'Ghul.
Est-ce une forme de fantôme pour qu'il soit dans toutes les époques?
C'est Lesmorn?
Ouais.
Je ne peux pas encore vous dire parce que je n'ai absolument pas lu Vector.
D'accord.
Tout simplement.
Moi, je l'ai lu.
Ça, je vais y revenir tout simplement parce qu'il va pas tarder à sortir en français.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et ça s'est surtout vu en 2008 grâce à Delcourt et donc je crois qu'on peut le citer, Monsieur Mornay, on a pu avoir des sorties très rapides de tous les grands événements Star Wars en BD. Donc là, quand je parle de Vector, il doit y avoir pas mal de personnes qui savent pas encore exactement ce que c'est, mais c'est normal, ils sont pas sortis en France. Donc mm-hmm. En France, on les retrouvera pour l'année 2009, on retrouvera la première partie en avril, donc qui se passe pendant la période KOTOR, et qui regroupe les KOTOR 25 à 28.
Mm-hmm.
Après, on a, ça sortira en juin, la deuxième partie, qui regroupe les Dark Times 11 et 12, et les Rébellions 15 et 16. Et enfin, le troisième volume qui regroupe les Legacy 28 et 31 qui sortira en août 2009. Donc vous voyez, ça regroupe Zen Carrick, ça regroupe Luke Skywalker, Kat Skywalker. Donc c'était vraiment le gros truc le plus attendu de l'année, c'était Vector. C'est une série qui s'est prolongée tout le long de l'année,
mm-hmm.
avec toutes les époques Star Wars. Donc c'était vraiment le truc le plus attendu et dont je mettrai une critique très bientôt.
Mm-hmm. Et toi, Henri, juste rapidement, tu l'as lu, donc à froid
j'ai
tes commentaires.
Lu, sauf, j'ai pas encore acheté le dernier tome de Legacy qui termine la saga parce qu'il n'était pas sorti quand je suis allé chercher mes tomes. Et pour l'instant, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc la première série, j'ai un bon souvenir. Les deux salles du milieu, c'était des épisodes en... C'était deux épisodes de deux volumes, donc c'était deux épisodes dans Dark Times, deux dans Rébellion, donc c'était un peu accéléré, donc j'avais un sentiment un peu mieux partagé, mais la partie Legacy rattrape un peu le tout, donc
d'accord.
J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, j'ai hâte d'acheter le Legacy 31 pour voir comment ça se termine.
D'accord.
Et je spoilerai pas pour savoir comment Céleste Morn arrive à rester jusqu'en pendant 4000 ans.
C'est bon.
Et par contre, un des points noirs, entre guillemets, un défaut de la série que certains reprochent, c'est que oui, bon, c'est un crossover, on voit Céleste Morn durant 4000 ans, mais il n'y a pas de réel impact de la série sur chaque époque.
Mm-hmm.
Et c'est notamment vrai pour, comme on a dit Henri, pour Dark Times et Rebellion.
Donc il ne fait que passer.
En tout cas, pour ces deux-là, c'est ce qu'on lui reproche, quoi.
Ok, d'accord.
Mais je me demande s'il n'y aura pas comme des répercussions à l'époque KOTOR et Legacy, parce que je crois qu'ils en parlent encore un petit peu dans la suite de KOTOR, et je crois que ça a un impact aussi pour Legacy, mais je crois qu'il y aura rien du tout à l'époque Dark Times ni Rebellion.
Et par contre, on a des histoires très intéressantes et des compléments d'informations sur les sites avec Carnes Moore et notamment l'apparition des Léviathans et tout ça.
Mm-hmm.
Donc je vais pas encore, j'ai vu quelques images parce que bien sûr je peux pas m'empêcher d'aller voir quelques previews.
Mm-hmm.
Ça a l'air quand même assez délectable. Voilà. Ce qu'on pouvait dire pour notre Vector. Concernant Delcourt. Donc le maître mot, comme je l'ai dit tout à l'heure de cette année, c'était la réactivité. La réactivité parce que il nous permettait de sortir des séries qui étaient sorties à peine il y a quelques mois aux États-Unis, mais en plus de ça, cette année, ils ont réédité des bouquins qui étaient introuvables, faut bien le dire. Toute la série Légende des Jedi, c'était introuvable, bon, sauf sur Internet, mais dans n'importe quelle librairie, c'est vrai que c'était introuvable. Et là, dès mars de cette année, ils ont débuté avec la Légende des Jedi, le tome 1, l'âge d'or des Sith. Donc ça, c'était vraiment la grosse surprise, parce que ça a permis à toute une communauté de redécouvrir ces livres.
Mmh.
C'était pas une bonne nouvelle pour moi, parce qu'évidemment, je les avais en Dark Horse France, donc du coup, ils ont perdu en valeur.
Oui.
Mais ça a perdu... De quoi?
Oui. Oui, il y a Laurent Ruquier qui vient de m'appeler, il m'a dit de te dire que Delcourt nous a pris de court.
Putain. Non mais là, il y en a marre, hein. Tu peux pas le virer de Star Wars en direct? C'est pas possible. Donc après ils ont continué en juin avec le tome 2, la chute des Sith, qui est donc le prolongement avec Nagasado. Et ils ont enquillé la fin de cette année là pour le mois de novembre, la critique que j'ai fait le mois dernier sur le sacre de Fridonnad. Donc là aussi ils ont été super réactifs pour sortir ça. Et ça fait vraiment plaisir. À côté, ils ont continué les séries normales, Rebellion, Legacy, à un rythme très soutenu. Et on va noter, pour terminer, une autre édition, qui sont les Star Wars manga. Voilà. Dedans, il y a une édition, qui est un Star Wars manga Silver and Black, qui pour moi est l'horreur ultime de tout ce qu'on peut avoir en BD. C'est vraiment pas beau. Par contre, les nobilisations, Un Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, pour moi, j'ai pris ça comme une très bonne nouvelle, parce que là où on avait deux tomes dans la première édition, maintenant on n'en a plus qu'un. Et il faut dire une chose, c'est que ces BD-là, donc ce sont des mangas, hein, on aime ou on n'aime pas, moi personnellement, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'ils ont été dans tous les détails du film, à la moindre réplique près. Alors que d'habitude, quand on prend une nobilisation comics, par exemple l'épisode 3 de chez Delcourt aussi, hein, c'est franchement mauvais. Hein. C'est franchement mauvais, il manque énormément de choses. Les dessins, oui, sont beaux, mais ça suit pas derrière. On voit que ça a été entièrement une opération commerciale. Mm-hmm. Ça a été fait pour vendre. Tandis que ces mangas-là sont très bons. Donc, je vais rappeler les auteurs. Pour Un Nouvel Espoir, on a Isao Tamaki. Pour L'Empire Contre-Attaque, on a Toshiki Kudo. Et pour Le Retour du Jedi, on a Shinichi Hiromoto. Donc voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur la revue de cette année en comics.
Excellent. Donc je vais enchaîner immédiatement avec des éléments qui ont marqué quand même l'année. Et puis on discutera chacun de notre tour, on donnera nos commentaires par rapport à ça, dire si pour nous c'est un point positif ou négatif ou entre les deux dans le fond. Alors on va commencer par le film Clone Wars. On va parler de la série un peu plus tard, mais on va commencer avec le film Clone Wars. Donc j'ai ton commentaire, c'est plutôt négatif.
Non, pourquoi tout de suite C'est simplement un film immonde.
Non, j'avoue, moi personnellement, l'assemblage que ça l'a donné au cinéma, c'était peut-être la surprise de voir certains éléments absents d'un film Star Wars et dire la séquence. Même le regarder par la suite sur DVD, j'étais pas aussi satisfait qu'avoir écouté les épisodes de la série à la télé. Donc pour
qu'est-ce
moi,
qu'est-ce qui vous a dérangé dans le film entre guillemets?
Non, mais je sais pas, il y a comme un flow qu'il y a pas, il y a comme un pas ça coule pas assez, j'ai l'impression.
Je sais pas. Je veux dire que globalement, après une série télé, il y a des épisodes qui sont bons et des épisodes qui sont mauvais, c'est normal.
Tout à fait.
Et ouais. Ben le film de The Clone Wars, c'est un épisode mauvais mais sur 1h20. Et ça c'est horrible. C'est l'équivalent de Bombad Jedi, quoi. C'est nié, c'est...
D'accord.
Bah, je pense même surtout pas... que la... Non, vas-y, je veux juste dire qu'en fait... Ouais, c'est juste que je voulais dire que c'est juste que le... Je pense que c'était prévu pour la télé dès l'origine et que ça n'aurait pas dû sortir. C'est juste que c'était peut-être pas un truc qu'il aurait fallu voir au cinéma. Mm-hmm.
Moi, je suis content de l'avoir vu au cinéma.
Ah oui, c'est pour ça. Film.
Moi aussi. J'allais vu au cinéma.
Moi aussi, mais je... Moi aussi, mais peut-être que pour le style, c'était peut-être pas au niveau d'un film au cinéma. Bien que ça m'a fait plaisir d'avoir un Star Wars.
Nous, ça nous a fait plaisir.
Mm-hmm. Ah ouais,
moi aussi, nous, oui. Ça nous a fait plaisir. Donc c'est
oui, moi aussi. C'est juste que je pense que le format n'était pas fait pour le cinéma à l'origine quand même.
Mm-hmm. Ouais, j'ai eu aucun sentiment, et pire que ça, étant donné que je suis vraiment sur ma chrono, là, ça a été coup de grâce, quoi. Donc, tandis qu'avec certains épisodes, on pense même plus à ça. Des épisodes qui peuvent s'inscrire n'importe où chronologiquement parlant, c'est complètement différent. Mm-hmm.
Ça reste un événement promotionnel, je dirais, le film. Donc, ça a servi pour la série. Et puis, je suis quand même content qu'il ait pris ces épisodes-là et qu'il les ait mis avant, je sais pas si la réaction que les épisodes auraient eu s'ils auraient été insérés dans la série.
C'est-à-dire que c'est très mauvais pour débuter la série, alors que à l'inverse, quand la série a débuté avec Ambush et Rising Malevolence, tout le monde était d'accord pour dire que ça, c'était une, vraiment une très bonne entrée en matière pour la série, et c'était vrai.
J'avoue qu'avoir mis la trilogie Malevolence comme étant le film, ça rappelait beaucoup la trilogie classique, donc probablement que les critiques auraient été meilleures et que les gens auraient été plus le voir, je dirais, parce qu'il y a énormément de clichés et de clins d'œil à la trilogie classique dans Malevolence. Donc, si ça aurait été ça au cinéma, ça aurait été probablement un plus grand succès.
Moi, je pense, je peux donner un avis, c'était trop pointu pour vous, parce que vous êtes, je veux dire, dans la lecture, dans l'univers de Star Wars en lecture, je veux dire. Je pense que c'était trop pointu et que les lecteurs n'étaient peut-être pas, n'attendaient pas ce format-là, et préféraient peut-être rester dans le livre plutôt que dans l'animation en tant que telle. Et je pense qu'on aurait dû peut-être rester dans le film plus que dans, c'est du mal exprimé, mais je pense qu'on est trop, on était trop dans la lecture. Et pas dans le film en tant que tel. Il aurait fallu peut-être l'écrire plutôt que le faire en dessin animé.
Ah, peut-être. Peut-être.
Oui, c'est possible.
Sauf que, encore là, on aurait eu les problèmes de continuité dont je vais parler plus tard. Mais, mais c'est un bon point quand même. Je veux dire.
Ça aurait encore fâché la continuité.
mais tu vois, pour revenir, Clone Wars qui avait pas de lien avec l'écriture et qui était vraiment, on va dire, quelque chose de construit avec plein d'arrivées. L'autre faisait trop référence à de la lecture, à de l'écrit dans sa composition. Et je pense que les gens d'écrit voulaient pas voir en fait voir cette série animée en fait.
Non, ben moi je suis quand même content de la voir. J'aime beaucoup qu'est-ce qui est visuel. Ah. Donc je veux dire, j'ai pas
donc du coup on a gagné une voix, donc c'est bon. Ouf.
Non, c'est pas un non,
pour ma série t'auras toujours ma voix hein, par exemple.
Ah, c'est ça. Je veux dire, moi, mais
d'accord,
je suis très très positif pour la série. Je dirais que je ne suis pas aussi positif pour le film, ce qui ne fait pas pour moi que c'est une horreur, là. Je l'ai quand même écouté 3 fois le film déjà, là. Donc,
d'accord.
Ensuite.
Non, on peut dire qui est, c'est mauvais, quoi.
Ensuite, parler de Force Unleashed, qui était un jeu qui a été retardé et retardé et retardé. Et que
voilà, c'était mauvais.
Ce mec est fou.
Donc, ben, justement, vos commentaires, vas-y Raphaël, tu n'as pas aimé, pourquoi tu n'as pas aimé?
Alors, en fait, je sais pas pour semer la pagaille, hein, je suis pas du tout un tout du long, il y a là, non, malgré ce qu'on peut entendre, je suis quand même beaucoup plus raisonné. En fait, c'est une fois que tout le monde sourit, mais écoutez bien. Je pense que je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Alors, dans le jeu vidéo, je veux dire, on l'attendait tous, par exemple, Grand Turismo, il y a de ça quelques années. Quand Grand Turismo est sorti, c'était vraiment impressionnant. Il y a vraiment une approche, il y a vraiment quelque chose de construit dans l'écriture, dans la texture. Là, on en a parlé. On a fait des petits, j'ai participé, lors de la convention, à Londres, à des premières visions où là, on était impressionnés, on pouvait prendre les vaisseaux, déformer. On était vraiment, je veux dire, j'étais vraiment le premier à sauter dessus. Je le reçois, je le mets sur ma Wii. Oui. Voilà.
Ah, mais là, tu as dit le mot magique, là. La Wii, les graphismes ne sont pas là, quand même.
Oui. Non, mais même sans ça, je pense qu'il y avait, il fallait peut-être pas pousser le graphisme en lui disant que c'était quelque chose d'incroyable, avec des effets impressionnants, mais nous dire que c'était un jeu on pouvait s'amuser avec la Wiimote à faire du sabre laser, à faire une quête. Et puis, parce que quand on nous a présenté le jeu, on nous présentait comme un jeu où on déformait tout, où on pouvait tout modifier, alors que dans l'utilisation du jeu, c'est une quête avec un sabre laser. Et tu bastonnes. Boum, 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 boum. Voilà.
Mais c'est certain
c'est
que
vrai.
La version Wii, la version Wii comme n'a pas les engins graphiques comme l'engin Euphoria et tout ça qu'il n'y avait pas dans Xbox.
Tout
fait.
À
donc
fait.
C'est certain
mais,
que...
Mais ce que je veux dire, c'est quand on nous l'a présenté avec quand même une grande vision de l'utilisation de la Wiimote, quand on l'a présenté étant donné que c'était pour la Wii qu'il avait été conçu à l'origine, bah tu restes sur ta faim.
Ah non, il n'a pas été créé pour la Wii à l'origine, puisque apparemment il y a eu un tollé parce qu'il ne comptait pas le faire pour la Wii.
Ben c'est ça. D'ailleurs,
il y a eu le retard parce qu'il fallait qu'il le développe pour la Wii.
C'est ce que j'allais dire, donc.
Voilà.
Le retard est dû à la Wii, et j'avoue que malgré que le gameplay de la Wii, même s'il n'est pas semblable à manier vraiment un sabre laser, est mieux, c'est quand même mieux pour moi que d'y aller avec la petite manette du Xbox ou du PS3 quand même. Pour moi, c'est plus plaisant.
C'est vrai que je suis d'accord avec Raphaël, parce que bon, Lucas, c'est LucasArts, bon, ils s'en font, c'est-à-dire toujours, ouais, ça va être génial, ça va être ci, ça va être ça. Alors, ils en font tellement qu'on attend à avoir un truc qui est exceptionnel. Alors, CFU, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais c'est très très bon. Je veux dire, CFU, LucasArts, généralement, ils font pas de bons jeux. Hein. Mm-hmm. Je suis désolé. C'est toujours...
Ah, Lego Star Wars, c'est génial.
Lego Star Wars.
C'est rarement...
Ça, oui, c'est...
Ah oui, mais... Lego Star Wars, oui, mais c'est comme KOTOR. Le premier KOTOR est génialissime, quoi. Mais je veux dire, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, des jeux qui sont aussi bien finis que cela.
Mm-hmm. Mais j'avoue
pour ça que moi, TFU, j'ai accroché, parce que c'est vrai que tout est bien travaillé dessus. Il manquait pratiquement rien, quoi. Ouais, oui, mais arrivé, je me rappelle Jedi Power Battle sur PS1. C'était un jeu qui, d'un concept, était très bon, mais il était, pour moi, il n'était pas fini, quoi.
D'accord. Alors, pour appuyer sur ce que tu viens de dire et ce que Michel a dit, quand tu joues à Star Wars Lego, tu joues avec un univers Lego, avec une écriture Lego, et c'est vraiment tout est lié. Quand tu joues à ce jeu-là, le graphisme il est épatant. Je suis d'accord, la texture est bien. Mais l'utilisation que tu as des déformations et toutes ces choses-là n'apporte rien à la jouabilité. C'est une quête, point barre. Tu bastonnes, tu avances, tu bastonnes, tu avances. Tu récupères ton logo. Voilà. Et je regrette ça. Je regrette
qui avait dit ça, qui en fait ils auraient dû appeler Force Push le jeu.
Ouais, c'était Martin.
Oui, voilà, c'était Martin.
Star Wars de Force Push.
Ouais, c'est ça.
Non, j'avoue que pour moi, The Force Unleashed, c'est beaucoup plus l'histoire que le jeu. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, même si j'aime moins le fait que, attention, spoiler alert, pour ceux qui auraient pas joué ou lu.
Bouchez-vous les oreilles!
C'est le fait que la rébellion soit basée sur une idée de Palpatine puis Vader. Pour moi, c'est un peu décevant, mais l'histoire en tant que telle, c'est ça qui me fait accrocher plus que le gameplay. Moi, je voulais voir la suite de l'histoire, donc je bastonnais, je me foutais de la quête, je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passait. Dans ça, l'histoire, bon. Donc. Et toi, Henri, qu'est-ce que tu as pensé de Force Unleashed?
Ben, je n'ai pas le jeu.
Okay.
Donc, il faut juste parler de l'histoire aussi, que j'ai bien apprécié. Donc, comme tu disais, moi, de mon côté, j'ai bien aimé que ce soit Palpatine qui veuille créer l'alliance pour pouvoir arrêter tous ceux qui complotent contre lui. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ça soit l'apprenti secret qui soit quasiment son créateur à l'origine, alors que pour moi c'était toujours ça avait toujours été uniquement Bail Organa, Garmbal Iblis et Mon Mothma.
C'est vrai.
C'est ce que je vous disais par rapport au dessin animé. Vous voyez, c'est qu'on a une telle culture nous pousser sur les choses avec notre culture lecture, culture des jeux, que l'on devient même intolérant, alors que je suis prêt à parier que pour 80% des utilisateurs on trouvait ce jeu et on trouvait cet animé superbe.
Ah oui, je suis convaincu que tu as raison. On est vraiment, je dirais pas l'élite, mais une exception à la majorité.
On oublie souvent que avant tout, Star Wars, avant d'être une science, c'est une fiction. C'est ça qu'on oublie beaucoup. C'est vraiment un truc pour se délasser et faut sortir un peu du trip. C'est pour ça que j'aime bien les films. Chef.
Il parle bien, mon chef, hein.
Voilà. C'est pour ça que c'est ton jeu.
Sinon, ça passe bien sur PSP aussi, TFU. Bon, mais c'est moins amusant que Lego Star Wars, qui est totalement excellent.
Ah oui, mais Lego Star Wars, c'est un des must. Hein.
En fait, le seul avantage de The Force Unleashed, c'est que ça fait un bon exercice pour le bras.
Ouais. Est-ce qu'il y a au niveau du scénario aussi, enfin, j'ai pas accroché. Je trouve que les scénarios sont un peu bidons souvent dans ce genre de jeu aussi.
Tout à fait.
Ça sort de l'univers.
Tu te demandes comment Bail Organa fait l'alliance. Maintenant, il est connu de tous, y compris de l'empereur. Et tu te demandes comment ça se fait que Leia, elle a aucun problème avec l'empire.
Et à contrario, tu vois mes enfants qui jouent dessus, qui ont pas de cette culture-là aussi poussée que les uns et les autres, ont eu beaucoup de plaisir à jouer, à faire la quête. Tu vois, te trouver nez à nez avec des personnages qui avaient aucun lien. Mais se battre contre un rancor ou choses comme ça, ils trouvaient ça vraiment rigolo pour eux. Voilà. Et comme on disait, on oublie le côté.
C'est super.
Ouais, c'est ça. On oublie le côté peut-être détente et loisirs, mm-hmm. et on veut plutôt trop en faire une quête.
J'aimerais ça avoir l'innocence comme quand j'étais enfant, dans le sens que tout est impressionnant dans Star Wars. Maintenant, j'ai tellement lu, j'ai tellement de choses, la continuité, etc., que j'ai perdu un peu de plaisir. Oui, comme de Clone Wars, le côté visuel va me plaire beaucoup encore. Mais
tu sais quoi?
Je pense trop quand je regarde un épisode.
Je pensais à un truc par rapport à The Clone Wars. Je regardais la série sur W9, et puis bientôt elle va passer sur M6, mais le matin. Mais je crois qu'elle a déjà commencé à passer même. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, ça va devenir une des références, parce que si tu regardes les dessins animés à l'heure actuelle, sur les grandes chaînes TV, c'est pas terrible.
C'est pourri.
Et je me dis que d'ici quelques années, ça va devenir une référence pour tous les enfants qui vont grandir et qui se souviendront, tiens, ben, comme nous, on se souvenait de Dragon Ball Z ou autre manga de qualité qui passait à l'époque.
Mm-hmm. J'ai pas connu,
mais Danny, moi. Danny, quand il était jeune, la télé n'existait pas, alors c'est quand même pas évident.
Il écoutait la BBC. Ouais, la radio. Ça.
Non, à l'époque de Goldorak, Albator, Capitaine Flamme et la Force G et tout ce tralala.
Ça, j'ai connu.
Ouais.
La Force G, je connais pas, mais pour m'expliquer.
Capitaine Flamme, j'ai pas... I win test.
Une autre chose qui est... peut-être pas tout le monde parmi vous l'avait écouté, c'est Robot Chicken, la deuxième édition.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moins bien que le premier.
Moins bien?
Il y a des choses bien, mais c'est moins bien que le premier, quand même.
D'accord.
Palpatine chez le coiffeur, c'est culte. Ah, ça, c'est...
Moi, j'ai de la misère à séparer Robot Chicken du sketch de la première édition, quand il parlait au téléphone avec Darth Vader. Ça, c'est le meilleur de tous les temps. Ils ont pas réussi à faire un sketch aussi bon que ça encore. Donc,
j'ai envie de me plonger dans un bain chaud et pleurer.
Donc, Raphaël, tu dois nous quitter, donc merci d'être venu à l'émission encore une fois.
Bah, je remercie Raphaël. Tout le monde. Oui. Certains vont être contents de mon départ, d'autres un peu plus tristes.
Non, mais...
ils vont se venger sur moi.
Non, t'en fais pas. J'en profite pour souhaiter quand même une bonne année 2009 à vous tous et à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui tchatchent. Mmh. Et puis je pense que Danny va nous donner rendez-vous prochainement. Avec grand plaisir, je retournerai avec vous commenter, discuter, argumenter et me défendre aussi face à vous. Et je vous souhaite une bonne fin d'émission, d'accord?
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bye.
Salut.
Justement, ça me fait penser une autre chose qui est revenue cette année, c'est Star Wars en direct. Quand même.
C'est quoi ça?
On peut pas faire passer du champagne par le fil internet? Là?
Non, malheureusement.
C'est du champagne au Canada?
Bien sûr. Champagne ouais, de France.
On va la bouteille parce qu'en plus, faut aller dans les dans les alcool stores là. C'est pas le bordel quoi.
Uh-huh. On fera la fête pour sortir une émission. Mm-hmm. On se retrouvera tous pour faire une émission en direct.
D'ailleurs.
Strasbourg.
D'ailleurs, je me souviens plus c'est quel épisode de Star Wars en direct du passé où est-ce qu'on avait ouvert une bouteille de champagne pendant l'émission. Peut-être, Henri, tu t'en souviens. Je me souviens plus c'est pour quel anniversaire qu'on avait fait ça.
Peut-être la centième.
Si c'est pour qu'il y en ait qu'un seul qui la boive, la bouteille de champagne, la cinquantième. Ça sert à rien.
Hein. Peut-être pour la cinquantième. C'est peut-être pas impossible que ce soit pour la cinquantième.
Ouais, la cinquantième peut-être, ouais. Ça fait un bon bout de temps, en tout cas.
Ouais, je vois pas pour quelles autres occasions ça aurait pu profiter de ouvrir le champagne en direct.
D'accord.
Je vois que la cinquantième, moi.
Autre chose qu'il y a eu cette année, le prolongement du contrat de Del Rey, on ne l'a pas vraiment mentionné. On a fait une émission là-dessus, mais pour moi, c'est un point positif quand même, avec des nouveaux auteurs, etc. Déjà, Karen Miller a bien paru, à mon avis, avec le premier roman de la nouvelle vague. Donc, j'imagine que la suite devrait être bonne. Et la série Fate of the Jedi a l'air excellente. Juste par déjà le synopsis du premier, donc.
Oui. C'est vrai, j'ai tellement parlé des romans que j'ai oublié qu'il y avait le renouvellement du contrat en plus. Mm-hmm.
Puis aussi un point positif pour moi, c'est que tous les audiobooks ne seront plus abrégés maintenant, ils vont être pleine longueur. Donc, pour moi, c'est un avantage, puis je vais commencer une transition. Comme j'ai déjà mentionné, je pense que la série, justement, Fate of the Jedi, je vais commencer par celle-là. Je vais acheter seulement les audiobooks de celle-là. Et puis, je vais voir si je peux m'adapter à lâcher la lecture.
Une question pour toi sur le chat.
Je viens d'y répondre.
Ah, j'ai pas encore vu la réponse, mais faut le dire à tout le monde. C'est quoi le livre avec Anakin et Padmé dans un lit?
Wild Space.
Et quand même, tu vois ceux qui sont pervers, hein, toi et petit cochon.
On en parlait aujourd'hui, on en a parlé ce matin, tout à l'heure dans l'émission, on voit que t'as pas écouté, hein.
Mais c'est rien de sexuel.
C'est moi les romans, je suis pas toujours au taquet.
Mais faut pas penser que c'est sexuel, là. Je veux dire, c'est, je me souviens plus si c'est avant ou après. L'acte, mais quand même, il y a rien de décrit physiquement de l'action. Là, faut pas être pervers non
je
plus.
Je sens
là.
Une légère dérive que j'ai instaurée. Je suis très fier.
Qui veut lui jeter la première pierre?
Allez-y, lapidez-moi.
J'avais dit que je me vengerais. Hein. Mm-hmm.
T'es capable de faire bien mieux, tu me déçois.
Je sais pas si pour vous c'est des points positifs ou pas. Il y a eu l'annonce du jeu massivement multijoueur The Old Republic. Personnellement, je ne jouerai pas parce que les jeux massivement multijoueurs, c'est pour les gens qui ont du temps.
Les geeks.
Ouais, en général, c'est ça. Donc, je sais
non,
pas si...
Non, les vrais geeks, ils ont autre chose à faire, justement.
Mais... Ah bon, qu'est-ce que tu fais?
Mais...
autre chose sur Internet.
Mais graphiquement, ça a l'air quand même bien. C'est supposément bon pour des ordinateurs PC qui n'ont pas besoin d'être des bombes. Et puis, donc...
Au niveau scénaristique, ça a pas l'air d'être top quand même.
Hein. Non, c'est ça. J'ai hâte d'avoir...
Ils exploitent, ils pressent comme pas possible la période Ancienne République. Je pense que ça commence à faire un peu beaucoup parce que elle est énormément exploitée, cette période. Hein.
Mais est-ce que ça peut être pire que Star Wars Galaxies?
Ah non, mais c'est sûr. À mon avis, c'est sûr que le jeu sera bon. Après, niveau scénaristique, est-ce que ça vaudra le coup? Ça, j'en suis pas sûr.
Moi, j'ai l'impression que ils ont décidé d'utiliser cette période parce que dans Star Wars Galaxies, qui était durant l'Empire, tout le monde voulait être un Jedi. Donc, et puis la continuité était complètement bousillée à ce moment-là où ils ont autorisé à tout le monde qui réussissait les quêtes de devenir Jedi. Donc, je veux dire, le cachet de l'histoire était complètement bousillé. Donc, j'imagine qu'ils ont décidé d'aller à cette époque parce que la majorité des gens voulait manier un sabre laser, etc., utiliser les pouvoirs de la force. Enfin. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Et il y a un autre jeu aussi qui a été annoncé, qui est Battlefront 3. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en être. D'ailleurs, c'est un des items que je voulais mentionner pour les attentes de l'année prochaine, le Battlefront 3. Donc, on va voir. Je ne crois pas avoir le temps de jouer, mais bon. Qu'avez-vous pensé de Indiana Jones et le Royaume and Kingdom of the Crystal Skull? En français, c'est Royaume du Crown de Cristal.
De Cristal.
Donc, vas-y, en rang premier.
Moi, j'ai été partagé. La première fois, j'ai vraiment eu du mal parce que j'ai été vraiment très surpris par la fin. Donc, on voit tout de suite que c'est la partie écrite par George Lucas, quoi. Mm-hmm. On voit tout de suite qui a donné les idées. Donc j'étais un peu surpris. Par contre, j'ai bien plus apprécié quand j'y suis retourné une deuxième fois parce que je m'attendais à savoir ce qui se passait. Donc il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. On n'aurait pas dû laisser George Lucas écrire l'histoire, surtout.
D'accord.
C'est vrai que c'est toujours le drame quand il écrit quelque chose.
Ben, c'est lui
par exemple, l'histoire d'amour en train d'acquiner Padmé.
Bah, faut pas oublier que c'est lui, je crois, qui a donné les idées pour la duologie des épisodes de Clone Wars, hein. Si je me trompe pas, Doku Capteur des Gungan Generals, je crois que l'idée principale, c'est, je crois que ça vient de George Lucas.
Juste Lair of Grievous, excuse, mais il a comme complètement bousillé l'histoire qui était existante déjà pour Grievous, mais bon. Si la série télé, c'est George, donc c'est lui qui a le contrôle de tout, il faut bousiller l'autre histoire, et puis...
Ouais, le point,
vivre avec.
Le pire, c'est qu'il va, apparemment, il a mis encore plus la patte à la main pour la seconde saison de la série, donc ça va être dangereux.
C'est ça. Et toi, Louis, par rapport à Indiana Jones?
Bon, c'est un avis assez mitigé, parce que faut dire que quand même, la fin, c'est n'importe quoi. Sinon, dans l'ensemble, le film est fidèle à sa réputation. J'ai eu des... Indiana Jones, hein, je veux dire, j'ai eu des grands moments de fou rire avec son fils, qui est très bien amené, notamment quand il lui dit de reprendre ses études. Ça me fait vraiment marrer. Sinon, l'histoire des êtres temporels, là, c'est interdimensionnel, c'est nul à chier. Voir des scoops volantes partout, faut arrêter de fumer. C'est pas Indiana Jones.
Le pire, c'est que Spielberg, il était contre, hein, ça. C'est parce qu'il a essayé, parce que Lucas a poussé. Hein.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'argent qui venait de Lucasfilm là-dedans, donc.
Putain, mais regarde-les, ils s'en vont à bord d'un faucon millénium. Ça, c'était vraiment horrible. Globalement, le film est pas ça. Enfin, il est pas trop mal, quoi. Mais c'est vrai que. Au début, ce qui m'avait choqué, c'était aussi les crânes de cristal. Ça ressemblait vraiment à un bout de plastique. Mm-hmm. Et puis finalement, en l'ayant visionné une deuxième fois, je trouve que ça passait bien. Mm-hmm.
Voilà. Et toi, Michel?
Je trouve que c'est une... Moi, je vais me faire lâcher. J'ai trouvé que c'était une bonne continuité. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu des choses très mystiques dans les trois premiers épisodes d'Indiana Jones. Mm-hmm. Ici, bon, le quatrième, c'est vrai que Harrison Ford a vieilli, que c'est un truc quand même, une grosse production. On sent trop que Lucas est derrière. Bon, avec les petits chiens de prairie, c'est too much. Mais l'esprit Indiana Jones reste là. Moi, je suis convaincu que l'esprit d'Indiana Jones reste là. Ça a ses faiblesses, comme ça a ses forces. Mm-hmm. Nous aussi, on a vieilli. On a changé notre vision de voir les choses. Maintenant, si on prend le temple maudit, il saute aussi de centaines de mètres dans un matelas, un canot pneumatique. Mm-hmm. Il dévale une montagne sur la neige, puis il atterrit dans un lac. Je veux dire, je pense qu'on attendait tellement de cette Indiana Jones 4 mm-hmm. qu'on en a été déçu, un peu comme on a pu être déçu de la prélogie après l'original trilogie. Maintenant qu'il y ait des extraterrestres, moi ça m'a pas du tout dérangé. Enfin, des êtres interdimensionnels, pas des extraterrestres. On touche à autre chose, quoi. C'est, je vais pas dire que c'est comme Clone Wars, que c'est du bonus à Star Wars, mais c'est presque la même chose. La première fois, c'est vrai que j'ai été assez surpris, mais en le revoyant une seconde fois, il y a vraiment de très bons moments. C'est plus Indiana Jones, comme il était jeune, c'est normal que le personnage change. À la limite, Marion m'a plus dérangé qu'Indiana Jones dans le film. Mm-hmm. Bon, côté un peu too much aussi.
Je trouvais ça énorme, moi, de la voir, justement.
Oui, c'est énorme de voir de nouveau la rencontre. Mais je trouve qu'au niveau du personnage en lui-même, elle a été là un peu plus comme un faire-valoir que vraiment un personnage intégrant l'histoire complète. Mm-hmm.
Okay. Oui, par contre, au niveau d'Indiana Jones, et tu le dis à juste titre, dans le temple maudit, c'est vrai qu'il saute d'un chariot de je sais pas combien de centaines de mètres, et moi ça m'a toujours fait mourir de rire. Parce que c'est beaucoup dans l'exagération et c'est énorme. Mais on le retrouve très bien aussi dans le nouvel Indiana Jones, et c'est, comme tu dis, c'est une bonne continuité aussi, c'est vrai.
Mais c'est vrai, ça me choque moins, dans les anciens films, des trucs un peu aberrants que dans le nouveau avec tout ce qui se passe.
Mais parce que tu l'attendais avec une autre vue, avec une autre vision, avec un autre espoir, en te disant on va en avoir plein la gueule comme on en a eu avec les premiers. Mm-hmm. Et personnellement, moi je trouve qu'on l'a eu. Ben maintenant, Indiana Jones ne peut plus non plus faire les 400 coups comme il faisait dans les trois premiers épisodes.
Mais moi je sais
pas, vous l'avez vu. Le coup du frigo avec la bombe nucléaire, ça c'est vraiment Indiana Jones, c'est n'importe quoi.
Mais c'est génial, quoi, je trouve. Enfin, je trouve que ça fait partie du caractère mm-hmm. du film.
Mais je sais pas, je trouve que c'est quand même plus je trouve ça plus exagéré que Indiana Jones en train de sauter sur un chariot 100 mètres en dessous.
Parce qu'il faut qu'il atterrisse sur les rails, quoi. À mon avis, tu peux essayer de le faire, mais tu n'y arriveras jamais, hein.
Il faut le prendre avec recul, quoi. Il faut pas prendre ça au premier degré,
J'étais un peu du même avis que Michel. Moi, c'était loin d'être mon préféré dans les Indiana Jones, mais pour moi, j'avais pas plus la vision d'enfant, pour moi, c'était un peu du même calibre que Temple of Doom. Moi, je m'attendais à rien, et puis j'ai été diverti. C'est certain qu'il y a des invraisemblances dans ce film-là et dans tous les autres films. Indiana Jones, dans le fond, c'est un archéologue qui est pas très doué et qui souvent s'échappe par la chance. Donc, il faut quand même se donner ça que c'est un personnage qui est quand même entouré par la chance et puis qui sort par inadvertance de toutes sortes de situations, puis c'est ça qui est comique à voir. Donc moi j'ai bien aimé quand même ce Indiana Jones là sans que ça soit le meilleur là.
En général les héros s'en sortent souvent par la chance.
C'est ça. Donc c'est point positif négatif, c'est deux positifs contre deux négatifs.
Ouais, y a pas de négatif, y a que du positif, hein.
C'est ça.
Oh non, les êtres.
Et sinon, pour revenir un peu au niveau collection, moi je l'ai montré par la vidéo, il y a Sideshow qui a sorti une terrible reproduction d'Indiana Jones au niveau, sortie des aventuriers de l'Arche perdue, avec l'idole à la main. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil sur le site de Sideshow, il est vraiment magnifique. Il fait plus ou moins 60 cm de haut. Vraiment super pour les collectionneurs.
Ils ont sorti un peu trop bronzé
au niveau de la peinture du visage, mais il est super.
Ils ont sorti une ligne aussi, je crois, Hasbro pour les. Ils ont quand même sorti une ligne Hasbro pour les figurines pour le Royaume du Roi de Cristal.
Mais elle commence tout doucement à piquer du nez. Ça a été un peu un effet de buzz quand le film est sorti. Ils ont voulu faire énormément de séries comme ils l'ont fait pour Star Wars. Mm-hmm. La sauce n'a pas pris. Et donc voilà quoi, au niveau des figurines ils vont arrêter. Il y a les bustes Gentle Giant prépare des statues aussi. Il y a des répliques qui sont faites chez Nobel Collection, donc il y a le fouet, ils vont sortir le médaillon, Beaumont médaillon de rat. Gentle Giant aussi a sorti des petites répliques du Graal pour mettre des attaches trombones. Qu'est-ce qu'il y a encore de sorti? Sideshow a sorti une série de chapeaux de différentes gammes avec de différentes qualités, donc exactement le Fedora que porte Indiana Jones. Il y a pas mal de produits dérivés Indiana Jones qui sont sortis quoi, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et pour répondre au niveau de la question du Sideshow Indiana Jones, c'est entre 220 et 250 euros.
D'accord.
Pour le Sideshow.
Donc,
Il est vraiment bon.
Donc maintenant, pour moi, le point le plus positif de l'année 2008, c'est la série télé Clone Wars. Donc, peut-être donner vos commentaires. On va commencer avec Louis, peut-être, cette fois-ci. Pour la série
Clone Wars?
Ouais, à la télé, cette fois-ci, et non le film.
Bah, je dirais que globalement, c'est assez bon, hein. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la regarder. En général, on passe 20 minutes où on se prend pas la tête. Ce que je regrette, c'est que malheureusement, c'est vrai qu'on a un niveau de qualité qui est très très variable. On passe du très mauvais au très très bon. Je parle d'un niveau scénaristique, hein, parce que quand je vois Gungan General, non pas Gungan General, ça c'est celui d'hier. Quand je vois Bomba Jedi, c'est franchement pas bon, quoi. Et puis quand je vois Rookies, par exemple, c'est vraiment exceptionnel. Parce que autant la série fait dans l'archétype du comic lourd, autant elle va chercher assez profondément sur qu'est-ce qui se passe avec les clones, comment ils vivent la guerre. Non, c'est très positif pour moi. Sauf que bien sûr, ça reste emmerdant pour pouvoir le caser dans la chronologie. Mais bon.
Donc côté continuité, moi personnellement, c'est excellent. Comme tu dis, il y a des exceptions dans les épisodes. L'humour est pas toujours idéal. Je veux dire, des fois c'est beaucoup plus pour les jeunes, des fois c'est beaucoup plus pour les adultes. Dans les gags, il y a des gros problèmes de continuité. Je commencerai pas là-dessus, là, mais je veux dire, c'est inévitable.
Sinon, on n'a pas fini si on parle
de ça. Exactement, et ça doit être l'enfer pour faire de l'ordre là-dedans pour ta chronologie, par exemple.
C'est pour ça que j'ai pas commencé. J'attends que Vivendi fasse tout.
Ouais, mais j'ai l'impression.
C'est l'épisode, ouais.
Mais ça, c'était un de mes points négatifs. J'ai l'impression que Leland Chi a abandonné son travail. Le contrôle de qualité, il est plus là du
c'est
tout.
C'est vrai
là.
Que c'est un fantôme à l'heure actuelle. On voit plus sur StarWars.com. Sur son topic de continuité, il parle jamais.
C'est ça. Et puis difficile.
Et puis j'ai même essayé de le contacter. Il est injoignable.
Donc je crois que soit qu'il fait des cauchemars présentement. Et...
ah oui, c'est sûr.
Parce que j'ai l'impression que c'est supposément lui qui est en charge, mais j'ai l'impression que c'est comme si George Lucas et Dave Filoni faisaient plus à leur tête et que c'est eux qu'il va falloir vraiment suivre. Et tout ce qui a été fait pendant la période Clone Wars va falloir faire un reboot, comme on dit.
Une retcon.
Ouais, c'est ça. Recommencer à zéro, là, parce que c'est horrible.
C'est la mortale,
quoi. Ouais. Mais c'est parce que c'est ça, l'impact que la série Clone Wars a sur la continuité en général va être majeur. Ça me fait peur. J'ai hâte de voir comment que la série va continuer. J'ai peur que je l'écoute, j'aime bien ça, mais j'attends toujours plus. À chaque semaine, je m'attends à ce que ça soit meilleur et meilleur. Et j'ai l'impression que ça va plafonner.
Ceci dit, pour le prochain épisode de Jedi Crash, je pense que ça va être bon parce qu'on va enfin avoir, je pense, une des premières grandes défaites républicaines montrées à l'écran.
Et on va voir Ella Secura aussi, surtout.
Oui. Mais d'un autre côté, je m'inquiète parce que c'est comme la fille de Lucas qui a donné l'idée.
Celle
qui a scénarisé le truc. Donc,
faut peut-être pas se fier sur la bande-annonce, donc.
On va tous crever.
Je me fie pas tellement à ce que j'ai vu pour l'instant, je vais quand même attendre de voir.
Si elle tient de son père, on est mal barré, hein.
Oui, justement. C'est pour ça.
Et toi, Michel, tu n'as vu seulement quelques épisodes, donc, puis étant donné que t'es moins influencé par la continuité, comment tu as vu, justement, le début de la série, peut-être?
Ben, c'est un peu mou, hein. C'est un peu mou. Je trouvais le début de la série, bon, c'est pas super intéressant, Faut voir la suite. Je pense que je vais arrêter de la regarder à la télévision et que je vais attendre que ça sorte en DVD et me manger tout d'un coup. Histoire d'en profiter un minimum, je sais pas. Mais je suis un peu à la rue à ce niveau-là. Les quatre premiers épisodes viennent de passer chez nous seulement hier en Belgique. Donc il y a déjà un très grand moment entre le film et... Enfin le film, l'animation, le long-métrage qui est passé au cinéma. Et les dessins animés, la série dessins animés qui passe ici. Donc, j'ai pas trop d'avis pour l'instant. C'est bien. Au niveau graphique, j'accroche toujours. Parce que je trouve qu'au niveau graphique, c'est bien foutu, quoi. Même si c'est très droit, très, très raide, très saccadé, ça me plaît bien. Non, au niveau de l'histoire, bon, ben, on verra bien vers où ça va aller. Évidemment, vous avez 7 épisodes d'avance sur moi. Vous savez dans quel sens ça va, quoi.
Mais bon, voilà. J'avoue que, côté graphisme, je pense que Louis le mentionnait un peu plus tôt, c'est du jamais vu à la télévision pour des dessins animés. Donc, simplement ça fait que ça vaut la peine de le regarder. Donc,
Oui, de regarder un épisode ou deux, mais ça n'accroche pas l'histoire. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis graphiste de profession et j'aime bien aussi tout ce qui change un peu et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si c'est juste regarder pour la qualité graphique, c'est pas non plus super intéressant. On a vu des épisodes, bon, on sait bien que le reste sera qualitatif au niveau graphique et sera dans le même ton. Maintenant, ce qu'il faut, où ça doit accrocher, c'est au niveau du scénario et voir où on va. Mm-hmm. Et moi, je suis encore trop au début que pour donner un avis vraiment concret dessus.
D'accord.
J'ai bien aimé le long métrage, j'ai passé un super bon moment. Comme je le disais tout à l'heure, c'était au cinéma et j'étais ravi que ce soit au cinéma. Parce que on a pu en profiter sur le grand écran avec du bon son et tout ce qui s'ensuit. C'est un plaisir qui reste en tant que fan de Star Wars. C'est d'aller voir ça dans une salle de cinéma.
En effet. Et puis j'ai surtout hâte de voir, je me suis procuré le DVD du film et puis j'ai pu voir certains extraits. J'avais pas cherché sur YouTube, je suis certain qu'il était sur YouTube, mais les images de la dernière trilogie de la saison 1. La trilogie Rylot, ça a l'air vraiment fameux comme série, un hommage à la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça va être rendu dans un univers Star Wars un peu. Maintenant, si on va dans les moins bons points, est-ce que vous avez des points en général négatifs? Malgré que avant d'aller dans les moins bons points, peut-être parler des conventions et des événements qu'il y a eu. J'imagine que c'est plutôt positif en général côté événements, mais qu'est-ce qui a marqué votre année? On peut peut-être commencer par par Louis et terminer avec Michel qui va peut-être parler davantage de la célébration de Japan qui était et puis celui en Angleterre aussi, je me souviens plus le nom.
Il n'y a pas eu d'événement vraiment en Angleterre comme on entend événement.
Hein. Ok, mais d'accord.
Je reviendrai par après.
Parfait. Donc Louis, tu avais participé à la convention QC et puis je me souviens plus l'autre.
Macon.
Donc,
c'est la collection.
Voilà, c'est ça. Disons, juste avant QC, qui sont les générations Star Wars, il y avait le salon de Mugen en février. Donc, je ne sais pas si Michel y était allé.
Non, je n'y suis pas allé, mais évidemment, on avait. Je pense que c'est Raphaël qui est allé, qui a fait le compte rendu. Moi, je n'étais pas sur place. Bon, très, très amical, très bon enfant, comme d'habitude, comme salon. Géré par Marc Pollet qui fait ça chaque année terriblement bien et donc il prépare pour l'instant l'édition de 2009. Ça va être tout proche, ça va être quand est-ce que ça va être, je l'ai lu tout à l'heure, je ne sais plus, mais j'en reviendrai tout à l'heure pour vous dire, pour vous donner les dates des événements de cette année-ci dans les mois qui viennent à retenir.
D'accord.
Donc, et puis, QC, qui sont la génération Star Wars, qui se tenait en fin avril de cette année, lors de l'année 2008, je veux dire. Donc en fait, le maître mot, comme dit Michel, c'est que c'est des petites conventions qui sont conviviales, sans prise de tête, et c'est ça qui fait tout leur charme. Je pense que le cru 2008 de QC était très très bon. On avait comme acteur Peter Mahou. Je me rappelle plus comment on prononce. Mayu, voilà, qui incarne donc Chewbacca. Donc c'est un personnage quand même qui est imposant. Qui était très impressionnant. Donc c'était vraiment sympa. On a vu énormément de costumés. Dans les nouveautés, on a vu une Shakti et on a vu aussi un Flo Koon qui était très très beau. Contrairement l'année dernière, il y a deux ans, non c'était pas contrairement, c'était comme il y a deux ans, on avait aussi le costume de Grievous qui est quand même l'un des plus beaux costumes qu'on puisse voir, où on a c'est toute une armature métallique, on a un bonhomme qui va dedans, enfin une personne qui va dedans et qui l'anime, enfin c'est magnifique. Et puis dans cette convention, on avait aussi des reproductions Lego qui étaient exceptionnelles. Comme la bataille de Hoth, avec la base Echo assiégée par les Walkers impériaux, enfin c'était magnifique, quoi. On trouvait le faucon à l'intérieur, on trouvait tous les vaisseaux, enfin superbe. On avait aussi la bataille de Geonosis, qui était faite exactement pareil, enfin c'était très très bon. Et surtout, bon ça n'a pas trop de rapport avec Star Wars, c'est vrai, mais surtout, on avait quand même la reproduction échelle 1 sur 1 de la Porte des Étoiles, qui était amenée, je me rappelle plus le nom de l'association, mais c'est une association toulousaine. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Michel.
L'association toulousaine qui a la Porte des Étoiles, tu es sûr que c'est pas une association ici en Belgique?
Ah non, je crois pas, non.
Non, parce qu'il y en a une ici en Belgique qui en a une aussi. Hein.
Ah bon, parce que il me semblait que c'était celle de Toulouse qui devait amener à FACT.
Ah, oui, moi, c'est possible. Je sais pas. Stargate, je suis un inconnu là-dedans.
Donc, on a retrouvé également un costume de Dark Vador Destroy qui était vraiment sympa. On a pu admirer... des statuettes de Donald Duck, Mickey qui était habillé en Stormtrooper et en pilote rebelle. On avait aussi Dingo qui était en Dark Vador, ça c'était très sympa. Donc voilà, globalement on avait l'intégralité de la collection Master Replica aussi qu'on pouvait admirer, donc c'était vraiment vraiment sympa. Après concernant merci de noter aussi que c'était organisé par les héritiers de la Force. Et que donc l'émission 2009 est en préparation, et que comme d'habitude, je pense qu'elle devrait avoir lieu d'ici fin avril, début mai. Pour le salon collection, il était donc organisé par les gardiens de l'anneau, et comme invité, il y avait Warwick Davis alias Wicket, il y avait Dave Prose alias Dark Vador, et Holly Shoshan, qui fait Shakti. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que ce salon était bien en dessous d'il y a 2 ans. Bon, c'est aussi dû au fait que ça se passe en même temps que la Japan Expo, apparemment. Donc, il y avait beaucoup moins de costumés. Ça n'empêche pas que l'ambiance était sympa, mais c'était pas la même chose, quoi. C'était pas... Donc, on retrouvait divers stands bien plus étoffés que Star Wars, hein. On avait du Indiana Jones, du Terminator, même du Dallas, quoi. Donc, c'est pour vous dire. On trouvait les R2D2, on avait des très belles collections de vaisseaux, de type Hasbro. Je pourrais pas te dire exactement parce que je suis un peu néophyte en collection, quoi. Mais non, c'était vraiment sympa, même si c'était un cran en dessous des autres années.
D'accord.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
Et toi, Michel, cette année, ton point fort côté événement?
Il y a eu du colossal, hein, évidemment, cette année-ci. Bon, je vais commencer quand même par parler le plus gros, je vais pas les faire chronologiquement, mais qui est bien entendu le Star Wars Celebration Japan, qui a été annoncé fin février 2008, pour se dérouler au mois de juillet, vers le 20 juillet, 20-21 juillet, quelque chose comme ça. Et donc on a dû speeder, et ça fallait un petit peu pour booker, que ce soit l'avion, l'hôtel et tout ce qui s'ensuit. On a eu beaucoup de chance, on a eu des personnes qui étaient derrière nous, qui nous ont bien aidé à pouvoir aller jusque là. On est parti à 3 personnes du staff, mais c'était assez colossal. Comme j'avais expliqué dans l'édition de Star Wars en direct que j'avais participé à ce niveau-là, ça avait moins de finesse et c'était moins chaleureux que Celebration Europe, donc l'année précédente en 2006. Mais le fait d'aller à une Celebration Star Wars au Japon et de voir tous ces exposants, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les conventions comme on a ici, que ce soit des grosses conventions, que ce soit des petites conventions, que ce soit même une convention comme Star Wars Réunion à Paris, donc qui a un attrait plus officiel, on va dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a permis de voir en avant-première les statuettes Kotobukiya, comme on discutait tout à l'heure dans les reviews, aussi de voir le faucon et la TTE d'Hasbro qui n'était pas encore sorti mais qui était disponible là-bas. On a pu les voir, on a pu les filmer, on a pu en profiter. Évidemment, toutes les annonces de Lego sur leur gamme Clone Wars, enfin toutes les exclusivités qui tournent autour, et voir du monde aussi là-bas, comme on voit peut-être rarement dans les conventions plus traditionnelles, c'est-à-dire voilà, on a croisé des Feloni, on a pu discuter avec 5 minutes, bon, et c'est toutes des personnes pressées, et du beau monde de Star Wars. Donc c'est vraiment l'univers dans lequel on est plongé dans ces conventions, et ça reste disponible à je veux dire, les personnes restent disponibles quasiment pour tout le monde, quoi. C'est vraiment très très bien. Là, évidemment, ça a été quand même le coup de massue sur The Clone Wars, quoi. Ils ont vraiment mis un point d'honneur à mettre ça en avant, que ce soit au niveau tous les explications des effets spéciaux. Dave Filoni a fait un très grand show en expliquant Clone Wars entièrement. L'ouverture de cérémonie, le point a été mis aussi sur Clone Wars avec Ashoka qui donnait les sabres laser à Steve Sansweet pour couper le cordon. C'est vraiment faut être difficile pour dire que c'était pas réussi, quoi. C'était vraiment quelque chose de très bien. Ça a peut-être un peu plus déçu les Américains qui étaient là, qui eux connaissent le San Diego Comic Con, le New York Comic Con, et tout ce qui est les celebrations officielles là-bas aux États-Unis, quoi. Eux vivent dans un autre monde, et je pense que ce monde-là était un peu trop transposé là. On a rencontré des personnes, Mark Hamill était là, il y avait Ray Park, il y avait les 3 acteurs qui ont joué les fêtes, donc il y a eu Jeremy Bullock pour Boba Fett, et il y a le jeune Jango Fett, le jeune Boba Fett avec Daniel Logan, et Jango Fett était là, Temuera Morrison, qui a fait un mémorable haka sur scène comme les Kiwis, les Néo-Zélandais, des Black comment est-ce qu'ils s'appellent, les joueurs de rugby encore? Les Kiwis? Les Blacks?
C'est les Black. Je ne sais plus.
Les All Blacks, voilà, merci. Et je pensais à Black Hole, mais c'était All Black, c'était l'autre. Enfin, c'était quelque chose de colossal. Il y avait quand même une vingtaine d'acteurs qui étaient là, que ce soit pour les autographes. Il y a Lorne Peterson aussi qui est venu faire un show, qui a expliqué les trucages, les effets spéciaux. John Knoll aussi était sur place, qui a fait un show en expliquant tout ça. C'est de la magie à l'état pur, quoi. Je veux dire, nous, en plus des facilités qu'on a eues sur place, en allant là pour le reportage, ça a encore fait quelque chose de... Ça a donné un petit plus à ce niveau-là encore pour nous, quoi.
Et je crois que les Américains en veulent encore à la Célébration Europe et Celebration Japan pour avoir eu Mark Hamill et qu'à la Célébration 4, il n'y ait aucune... Il n'a pas fait acte de présence.
Ah non, c'est possible. Mais par contre, il devait y avoir, et ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau, c'était Mark Hamill et Carrie Fisher devaient être là tous les deux à Celebration Japan. Malheureusement, Carrie Fisher a annulé un tout petit peu avant de venir. Mm-hmm. Sinon, avoir Luke, Léa, Dev Prose était là, donc Darth Vader était là. Il y avait Peter Mayhew qui faisait Chewbacca. Kenny Baker aussi qui malheureusement a dû annuler. Donc le nombre de personnages de l'original trilogie qui était là, c'était vraiment magnifique. Mm-hmm. Bullock était là. Il y avait aussi un Stormtrooper dont j'ai oublié le nom. Pourtant c'est un type très très sympathique. Mm-hmm. Il y a moins de les trouver au niveau des dédicaces, je pense, chez nous. Évidemment, je ne tombe plus sur son nom. Il y avait aussi évidemment tous les artistes comme Matt Bush qui fait tous ceux qui font les Art of Star Wars étaient là. Laurence Noble, celui qui a sculpté le terrible Darth Vader en bronze à 18 000 $ comme on discutait, lui était là, il faisait sa sculpture du buste de Luke présent sur le salon, quoi. Beaucoup de bouquins sur place aussi. Enfin, c'est vraiment un souvenir incroyable et c'est vraiment vivre une convention dans un autre état d'esprit.
C'est ça, c'est la culture est différente. Vivre ça dans une culture complètement différente, dans le fond.
En plus, oui, c'est ça, quoi. C'est de, que ce soit postposé là-bas au Japon où c'est pas notre style de vie, où les personnes sont courtoises, polies, ils savent faire une file d'attente, en fait, et c'est là aussi qu'on remarque que Star Wars c'est vraiment international parce que un fan reste un fan et tout le monde court dès l'ouverture des portes pour aller directement où ils doivent aller, quoi. À ce niveau-là, c'est assez assez impressionnant. Donc ça, c'était vraiment le gros truc de l'année 2008 au niveau des événements. Un événement aussi qui n'a pas été incontournable, c'est la JediCon à Düsseldorf, en Allemagne, où on était allé en 2004. C'était déjà très bien organisé, c'était très bien, mais cette année-ci ça a été encore mieux. Il y avait aussi beaucoup plus d'acteurs, il y avait la présence aussi évidemment de Steve Sansweet, hein, comme je l'ai dit. On a eu la chance de rencontrer là-bas, je ne tombe plus sur nom, je suis en train de tricher, de le chercher en direct. Ah là là, je ne sais plus son nom. Je vais retomber dessus.
Quel meublé, personnage, s'il vous plaît, meublé. Quel personnage?
C'est pas un personnage, c'est Robert Watt qui était là aussi à Star Wars Réunion 2, qui est quelqu'un aussi de super abordable et qui adore discuter. Il était là avec son clap de l'Empire contre-attaque et la veste de l'Empire contre-attaque qu'il mettait à Fins, donc quand ils ont tourné Hoth. Toutes les scènes sur Hoth. J'ai eu la chance d'ailleurs de porter la veste et de tenir le clap de Robert Watt ainsi que Pierre, mon collaborateur. Ça reste des petits souvenirs assez terribles. Une très bonne ambiance aussi, beaucoup de costumés, beaucoup de shows sur scène, que ce soit au niveau du planning cérémonie, mais tous les acteurs qui passent expliquer les petites anecdotes de tournage, comment ils ont vécu Star Wars, comme ils ont fait aussi à Celebration Japan. Les acteurs passent et ils expliquent vraiment comment ça les a touchés. Il y a ensuite des sessions de questions-réponses avec l'assemblée et tout se passe relativement bien. Il y a eu aussi ce qui n'a pas eu au Japon mais qui a eu là à la JediCon, c'est une vente aux enchères comme ils font chaque fois. Évidemment, c'est toujours un profit caritatif, hein. Ce n'est jamais pour gagner de l'argent. C'est pas Lucas qui met ça sur eBay pour se faire de l'argent. Mm-hmm. C'est vrai, les bénéfices sont vraiment reportés. Je pense que c'est Make-A-Wish qui est leur association de prédilection, où ils ont vendu des pièces de comme des tourelles de que l'on voit dans l'étoile noire, sur l'étoile noire dans Un Nouvel Espoir, quand ils sont dans les tranchées.
D'accord.
Bon, c'est des morceaux de bois peints. Donc ce sont des petites tourelles qui partent quand même à 1200 euros, parce que ça a été
carrément
dans le film, enfin ouais, carrément, enfin c'était le truc le plus cher. Évidemment, il y avait aussi des casquettes des équipes de tournage, des t-shirts exclusifs, que ce soit ILM et ce qui s'ensuit, enfin des trucs qui sont vraiment distribués chez Lucasfilm, qu'on a plus difficile à obtenir, et bon, c'était l'opportunité. Et puis il y en a qui aiment bien flamber. Moi personnellement, j'ai rien acheté. Mm-hmm. C'était un petit peu hors de prix, mais je pense aussi personnellement que ça a été un petit peu la Jedi-Con a été un peu servi de test, parce qu'il y a quand même les bruits de couloir qui disent que Celebration Europe 2 serait peut-être à Berlin en 2010.
Aha.
Bon, ça reste un bruit de couloir, c'est à garder dans le coin de la tête, pas encore trop spéculer dessus, mais c'est un truc, à mon avis, qui risque de se faire, parce que la JediCon s'est très bien déroulée. Steve Sansweet était très content, il était là sur place. Ça a très très bien marché, et je pense, on soupçonne que c'est la même équipe qui devrait se charger de Celebration Europe 2. Et avec des budgets certainement encore plus grands. Maintenant, ça reste vraiment une supposition de ma part, il y a rien d'officiel, donc c'est pas à prendre en compte. Sinon, ce qu'on a eu, bah, c'est Star Wars Exhibition Brussels, donc justement l'expo dont on parlait, qui s'est arrêtée à Bruxelles, et pour laquelle nous on a organisé une visite groupée avec des membres de chez nous. C'était la première fois qu'elle venait ici en Belgique, et bon, ça reste impressionnant. Il y en a plusieurs qui l'ont vu à Paris. Je suppose que pas mal de fans sont allés la voir. Je sais pas si elle est déjà passée au Québec.
Et jamais passé au Canada, point.
Ah, voilà, au Canada. Donc, on espère qu'elle passera au Canada.
Je pense le plus proche qu'elle a passé, c'est Boston et New York. C'est le plus proche qu'il y a eu du Québec. Donc,
Donc voilà. Enfin, ici, au niveau de l'Europe, je sais bien que c'est parti après sur Lisbonne. Ça partait en Italie. Elle s'est arrêtée aussi en Angleterre. Et pour l'instant, je ne sais plus où elle est. On en a discuté dernièrement, mais je sais plus trop où elle est. Mais ça tourne encore au niveau de l'Europe, quoi. Mm-hmm. Donc en Europe, elle fait énormément de villes. C'est peut-être parce que c'est plusieurs petits pays divisés que ils estiment le besoin de faire ça pas au niveau des distances de grandes distances kilométriques, mais plutôt des distances culturelles par rapport à la langue et la manière de voir les choses. Mm-hmm. Dans ce là. Bah, il y a eu aussi la Midnight Madness 2 lors de Toys R Us. Donc ça c'était mondial, je pense, dans chaque Toys R Us de chaque pays, ils ont ouvert les portes plus tôt pour vendre la gamme Clone Wars, Hasbro et d'autres produits dérivés.
Le Faucon,
en Paris, apparemment, c'est
le Faucon, le BMF sortait cette journée-là, je crois.
Je pense que c'est ça, ouais.
Mais il y a TTE, un des deux là.
Oui, je pense que c'est la TTE qui sortait à ce moment-là. Parce que le BMF, lui, fait partie de la Legacy Collection, je pense, et pas de la Clone Wars.
Okay.
Ça a vérifié. Et donc à Paris, apparemment, ça s'est super bien passé. Je n'étais pas présent, mais à voir les photos qu'il y a chez nous, bah, beaucoup de costumés, bonne ambiance. Évidemment, bon, bah, ça reste commercial aussi quelque part, donc c'est pour acheter et tout, mais bon, je pense qu'on peut se rendre dans un magasin comme ça et quand même ne pas acheter. Mm-hmm. Si on a envie de passer un bon moment pour un événement, c'est comme pour tout événement, on n'est pas obligé d'acheter directement. C'est clair qu'on est tenté, ça entraîne des coûts, mais...
Simplement voir la folie des fans.
Oui, c'est ça, quoi. C'est de se dire, ben voilà, on est tous là pour la même chose, et on veut voir ça, on veut être présent, c'est the place to be, comme on dit, c'est être là sur le moment, quoi.
C'est ça.
Et sinon, comme autre événement, on a eu le FACTS, évidemment, en Belgique, chaque année, dont cette année, enfin, pour 2009, il propose de voter pour l'acteur Star Wars qu'on désirait revoir cette année-ci, au fact, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal d'acteurs du monde de Star Wars qui sont venus au fact, et ils veulent en faire revenir un, et ils laissent le choix, pardon, à tous ceux qui suivent leur site, et d'ailleurs aussi notre site, et c'est une info à faire passer un peu partout, donc on peut voter pour les différents acteurs. Ça peut être Nalini Krishan, Alan Rusko, Michael Carter, Jeremy Bullock, Kenny Baker, Anthony Daniels, Dave Prowse, Femi Taylor, qui a fait Oula, Paul Blake, qui a fait Greedo, Silas Carson, mais lui, on l'a vu l'année dernière, donc je doute que ce soit lui, Jérôme Blake, David Bowers, Matthew Wood, qui fait la voix de Grievous, Ralph Brown, Richard Le Parmentier, qui est un type mais vraiment extraordinaire, d'une sympathie rare aussi, Ray Park, Daniel Logan, Richard Bonhill, Alan Harris et Peter Mayhew. Donc pour les choix proposés au niveau du vote, je sais pas, j'ai envoyé le lien, voilà, il vient de passer. Donc si vous voulez aller voter, vous passez par chez nous pour aller sur le site du fax et vous allez voter pour l'acteur que vous avez envie de voir. Et le dernier événement...
Excuse-moi, Michel, je veux juste faire une petite pause pour... Louis doit nous quitter, donc merci de ta présence, Louis. Peut-être juste en quittant, ton point fort et ton point faible de l'année, tout domaine confondu, et peut-être une ou deux attentes pour l'année prochaine.
Dans le point faible, c'est le film The Clone Wars. Le point fort,
l'encyclopédie,
il faut dire ce qu'il est, mais c'est tout bonnement hallucinant de voir que juste quelques mois après, on peut déjà avoir dans les mains les Legacy et les KOTOR. Moi, c'est ce qui m'a empêché d'aller acheter les originaux. Parce qu'avant, on avait tout de suite, on devait tout de suite attendre une éternité avant de pouvoir les lire.
D'accord.
Sinon, mes attentes pour 2009, c'est la Vector en français.
D'accord. Simplement. Mais merci beaucoup de tes commentaires.
Ben de rien, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec vous.
Et on se revoit à la prochaine émission.
Ça marche, salut à tous.
Merci Louis.
Bye.
Donc, on peut poursuivre Michel.
Oui. Et donc voilà, bah, le dernier événement que je voulais parler, bah, c'est le Forbidden Planet de Londres, qui avait l'exclusivité du buste Gentle Giant du Galactic Marine, dont pour l'occasion, Karl Mayer était de nouveau là. Donc Karl Mayer, c'est le big boss de chez Gentle Giant, c'est lui qui a fondé la société Gentle Giant Studio au départ, donc qui était là pour tous les trucs à cinéma, et qui après ont développé la partie statue, buste et tout ça qu'on connaît dans le monde de la collection. Je suis une personne franchement très ouverte avec qui on peut discuter, c'est vraiment très bien. Et il y avait aussi l'appareil, le scanner 3D, donc on s'est fait scanner notre tête en trois dimensions. C'est comme ça qu'ils réalisent les mini-bustes, ils scannent les acteurs, d'abord pour tous les trucages du film, des films pour toutes les séquences en images de synthèse, et après ben, ils réutilisent ces scans pour éditer ben, les petits bustes chez Gentle Giant, pour être le plus proche possible de l'acteur réel, quoi.
Et il n'y avait pas, il n'y avait pas chaque année un concours qu'un fan pouvait avoir son propre buste. Est-ce que ça a eu lieu cette année aussi?
Oui, cette année aussi, mais on n'a pas encore le résultat.
D'accord.
J'ai demandé plusieurs fois chez Forbidden Planet au responsable qui nous a accueillis là-bas. Non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. À mon avis, ils attendent que le buste soit réalisé. Pour l'annoncer, donc ça veut dire que malheureusement j'ai pas été tiré au sort, je n'ai pas gagné le droit d'être fait en mini-buste.
T'as fait immortaliser.
Ouais, mais bon, on a pu récupérer les photos des scans quand même, ce qui est toujours un chouette souvenir de voir que on a sympathisé. Très bonne chose, quoi. Bah, encore une fois, il y avait plusieurs francophones qui étaient là, européens, dont bon, Bernard de la 501e, le CEO de la 501e garnison en France était là. Et d'autres membres de chez nous, de notre forum, pour passer le temps. On était là très tôt, à 8h du matin. Il faisait froid, on buvait du café. C'est chouette. Vraiment des purs moments.
Super. Et
voilà pour ce qui est des événements. Je vais juste toucher peut-être un mot des événements qui vont
oui,
passer donc l'année prochaine. Mm-hmm.
On va commencer donc justement la partie les attentes 2009 et peut-être ce qui s'en vient aussi, donc vas-y.
Oui, bah les limites, oui. Je fais un bref agenda de ce qu'il va y avoir comme événement. Mm-hmm. Donc au mois de mars, il va y avoir le Kiwanis Force Event dans le nord de la France, à Tourcoing près de Lille, avec plusieurs acteurs dont Richard Le Parmentier, Jérémy Bullock. Ils ont vraiment axé sur des acteurs qui ont joué les amiraux au niveau de l'Empire. Donc Jérémy Bullock, Richard Le Parmentier, Kenneth Colley qui a fait l'amiral Piet, Michael Culver qui a fait le capitaine Nida et Barry Holland qui fait le lieutenant Renz, dont on a sorti le minibuste que j'ai parlé chez Rebelscum, que Rebelscum a eu comme exclusivité. Sinon, au niveau du mois de mars, dans le magasin Toy Star à Paris, il y a Mario Ayaya qui va être là en dédicace. Mario Yaya, elle a joué le rôle de Barry Sophie, si je ne me trompe pas. De
Luminara
Unduli. C'est ça. Voilà, c'était l'autre. Et évidemment, Migène, qui va être le plus proche le 28 février et 1er mars. À Migène, donc organisé par Marc Collet. Et puis évidemment, on aura les classiques Génération Star Wars qui sera encore là. Salon Collection, Fax, il y a le Toulouse Game Show qui va être là aussi cette année-ci. Enfin, il va y avoir plusieurs trucs dont on reparlera. Mais ça va pour moi rester quand même une petite année au niveau des events officiels. Ils vont mettre le paquet, j'espère, pour 2010.
En effet.
Les 30 ans de l'Empire.
Les étoiles sont alignées pour 2010, en fait, pour les événements.
Ben ouais, mais ça c'est mon espoir pour 2010, c'est d'avoir une année comme on a eu pour les 30 ans d'un nouvel espoir, avec plein d'annonces, avec des renouveaux et une deuxième celebration, quoi, surtout ici en Europe.
D'accord. Donc si je vous demande vos attentes justement, ben premièrement point fort et point faible de l'année et ou ben je dirais pas faible mais le meilleur et le moins pire.
Ah, et puis dans les événements ou en général?
En général, tout domaine confondu. Et ensuite, vos attentes pour 2009.
Bah, le point faible de 2008, c'est qu'ils n'ont pas encore édité les films Star Wars en Blu-ray. Et ma plus grande attente en 2009, c'est qu'ils éditent les films Star Wars en Blu-ray.
C'était un de mes points d'ailleurs. C'est bon.
Donc voilà, et sinon bah la plus grande réussite en 2008, ouais, je veux dire c'est vraiment les événements où j'ai participé parce que c'est là que je prends encore le plus de plaisir. On rencontre du monde, on est souvent sur le web, on est souvent que ce soit par webcam, que ce soit même par Skype ou sur forum ou quoi. Oui, on discute, mais on se voit pas assez et j'adore les événements, ça c'est le point fort je pense que je vais mettre en avant chaque année, c'est les événements sont là, il faut y aller pour se rencontrer, pas spécialement parce qu'on a un truc à faire signer, parce qu'on veut acheter un truc, c'est voir du monde, et je pense que là, on doit vraiment faire un petit pas en avant. Et le point faible, j'ai pas de point faible, il n'y a rien qui me déçoit, si peut-être aller le parfum Jedi.
Ouais, mais, non, mais tu avais mentionné le point faible, c'était que les films n'étaient pas sortis en Blu-ray. C'était ton point faible. Et des attentes pour l'an prochain?
Pardon?
Et des attentes pour l'an prochain?
Eh ben, qu'ils sortent les films en Blu-ray.
D'accord, c'est vrai.
C'est vraiment ça, c'est qu'ils sortent ça. Et encore une fois, je vais revenir sur les événements. C'est vraiment, oui, que les événements se passent bien, qu'il y ait du monde, qu'on se rencontre et que...
Peut-être qu'ils annoncent des événements, hein, annoncer la célébration 5, annoncer, célébration Europe 2, faire des annonces, on veut beaucoup d'annonces.
Non, mais qu'ils annoncent pas trop tôt. Je trouve qu'ils annoncent pas trop tôt. C'est ce qu'on a un peu, enfin, moi, c'est un petit peu le regret que j'ai au niveau des collectionneurs. C'est qu'ils peuvent annoncer une statue fin 2007, comme le R2-D2 chez Gentle Giant en statue, qui n'est toujours pas sorti. Donc oui, on est tout chaud quand on le voit, et puis on se dit, ouais, mais ça vient quand? Donc, qu'ils arrêtent de faire les annonces 6 mois à l'avance, qu'ils le fassent 2 mois à l'avance, qu'on dise voilà, précommande dans 2 mois et c'est parti. Ou commande et achat dans 2 mois.
Enfin.
Oui, on veut toujours connaître plus, on veut toujours avoir plus, c'est un peu notre rôle journaliste, entre guillemets. Mais,
enfin.
Non, qu'ils annoncent au bon moment.
Enfin, peut-être annoncer les événements, mais disons qu'habituellement, quand même, ils les annoncent un petit peu plus que 6 mois d'avance, au moins la date.
C'est vrai que pour la disposition au niveau de l'hôtel et tout ce qui s'ensuit quand il faut en prendre, c'est important, quoi. Mm-hmm. Mais bon.
Et toi, Henri, le point négatif.
Oui, ben alors point négatif de l'année dernière, je vois pas tellement comme ça, peut-être un ou deux romans qui n'étaient pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, mais sinon je vois pas vraiment de trop gros points négatifs. Point positif, ben évidemment la série Clone Wars, parce que c'est quand même la première série Star Wars. Enfin, il y en a eu d'autres avant, mais c'est vraiment une vraie série Star Wars de ce qu'on attendait depuis quelques années maintenant. Donc, faut vraiment fêter l'événement. Ensuite, mon attente pour l'année prochaine, je pense que pour certains qui sont peut-être oubliés, c'est peut-être qu'on va enfin avoir les premières informations sur la série live. Mm-hmm. Et c'est ce que j'attends parce que. Je pense que c'est pas impossible qu'on ait vraiment quelque chose en 2011. Donc j'espère qu'on aura les premières infos de l'histoire, des acteurs, quelque chose de concret sur la série live l'année prochaine.
Mm-hmm. Un synopsis, quelque chose.
Ouais. Oui, je pense que beaucoup de femmes, de fans attendent ça. Mm-hmm.
Ah, peut-être les femmes aussi. Hein. Non, c'est vrai, c'est un point qu'on a oublié, mais c'est vrai que la série live, quand même. J'attends quand même un petit peu aussi. Mm-hmm. Ouais, histoire d'en avoir un peu plus pour son argent.
Quelque chose pour adulte, là. Enfin.
Enfin, oui.
De mon côté, bon et moins bon. Le bon, c'est moi aussi, c'est la série Clone Wars à la télévision. C'est mon bon côté. Qui est en même temps mon moins bon côté pour les erreurs de continuité. C'est cette année que vraiment l'avalanche des erreurs a commencé. Le contrôle de qualité a vraiment été mou cette année. Donc, j'ai hâte de voir comment que l'année prochaine ça va se solutionner. C'est un de mes souhaits que ces problèmes-là se solutionnent, mais ça m'empêchera pas d'apprécier quand même la série. Une de mes attentes pour 2009, le film Fanboys. J'ai bien hâte de voir le film définitivement et la série Fate of the Jedi qui a l'air absolument géniale. On va avoir une bonne mesure avec le premier roman, donc. On va en parler à Star Wars en direct quand le temps sera venu. Donc, merci de vos commentaires, messieurs. Je crois qu'on va terminer là-dessus. On ne fera pas notre petite trivia cette semaine.
Oh,
t'es tout déçu. Donc, sur ce, on va... Voilà. La prochaine émission n'a pas été décidée encore, mais... ce sera en février, probablement mi-février, toujours même heure, donc 19h heure de l'Europe, 13h heure du Québec. Si vous avez des suggestions justement de sujets, envoyez-les nous à studio@swendirect.com ou sur notre page Facebook dédiée à Star Wars en direct, la version française. Je veux remercier nos collaborateurs, donc Michel et Raphaël de Mintinbox, Henri de Camus Web et Louis de Star Wars Universe pour leur présence aujourd'hui. Et aussi Denis et Olivier qui nous ont laissé leurs commentaires sur l'émission. Si vous voulez être partenaire, communiquez avec nous à la même adresse, donc pour toutes les dispositions. Si vous avez des commentaires, encore une fois, laissez-nous les savoir. Vous pouvez le faire par email à l'adresse que je viens de mentionner ou encore nous laisser un message sur la boîte vocale Skype à l'usager swendirect.com. Ne manquez pas Star Wars en direct édition Clone War toutes les semaines. La semaine prochaine, ce sera sur l'épisode Gungan General. D'ailleurs, ceux qui restent en ligne, moi et Henri allons l'enregistrer sous peu. Et puis, salutations finales de la part de tous les participants. Donc, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.